aux pages de personnalité. Christian Brochet, merci d'être là, parce que c'est une aventure qui te doit beaucoup. Nous sommes une maison qui transmettons la tradition, même si nous sommes une maison d'innovation, et nous tenons beaucoup à ce que nos présidents, au fil du temps, soient présents dans l'activité de la maison. Donc, Yves Senatiempo, ici présent, Jean-Claude Desoyer, ici également, et Mario qui va nous lancer cette soirée. Puis je voulais remercier à titre personnel celles et ceux qui ont permis, lorsque je suis arrivé en 1991, de créer ce lien indispensable avec la communauté scientifique, lien qui n'avait pas forcément été tout à fait noué dans de bonnes conditions. Donc, saluer la présence de Michel Brunet, parce que il y a eu un rendez-vous important avec un doyen de fac de sciences en octobre 91 qui devait durer 15 minutes et qui a duré 3 heures et qui a relancé toute une série de choses. Je salue aussi la présence à cette occasion de notre ami Jacques Lanfant qui finalement discrètement ont été à la manœuvre pour relancer cette maison qui, 25 ans après, a pris sa dimension, mais on en parlera un petit peu plus tard. Et puis vous remercier aussi pour votre présence, cette connivence, cette complicité, cette présence presque instinctive autour de cette maison. Un petit clin d'œil à mon cousin Claude Moreau, qui était vice-président de la région, avec qui on a eu des discussions difficile et qui a permis la connexion avec le conseil régional et l'aventure régionale de l'espace Mendès-France. Salut Catherine Coutel, merci de sa présence. Et puis dans la tradition, la lignée, la présence d'Yves Jean, le président de notre université, et le témoignage de ce lien au quotidien entre la communauté scientifique et puis cette maison, association Loi 1901, qui poursuit grâce à vous son rôle, son chemin, ici à Poitiers, en région. Et puis, vous passez le salut d'Alain Claise, qui sera parmi nous demain soir. Et merci Christine d'être présente et de le représenter. Donc, je l'ai eu au téléphone tout à l'heure. Donc, il sera parmi nous demain soir pour la deuxième soirée prospective. Donc, nous avons souhaité ce soir saluer la mémoire de ce grand nom, Pierre Mendès-France, et ses rapports à la recherche, grâce à Denis Tout. Gouttleben qui est là, la personnalité d'Hubert Curien et Michel André, mon ami de la Commission européenne. On se côtoie depuis 22, 23, 24 ans, autour de Michel Blais, complice de la maison. Donc, merci d'être là. Jean-Luc Terradillos nous fera, comme d'habitude, avec son talent de chef d'orchestre et de poète, un petit point sur l'actualité Poitou-Charentes que vous avez tous entre les mains, je l'espère. Belle revue, donc avant de participer ensemble au repas autour des produits gastronomiques régionaux que Antoine nous a concoctés. Donc, cher Mario, cher président, je te laisse la parole. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci.
C'est un réel privilège, mesdames et messieurs les élus, monsieur le président de l'Université de Poitiers, chers collègues, chers amis, que d'ouvrir cette première manifestation qui marque la célébration des 25 ans de l'espace Mendès-France. Nous fêtons cette année 25 ans d'une aventure collective, Didier a employé ces termes, à laquelle la plupart d'entre nous présents ce soir a contribué. Cette aventure collective, c'est d'abord une implication collective des nombreux bénévoles du monde associatif, de l'éducation, de l'enseignement supérieur, qui participent à la construction de la programmation de notre centre, enrichissent la thématique par la complémentarité des approches. C'est en 2013 l'implication de 220 bénévoles qui a permis de proposer 2850 actions organisées aussi bien intramuros ici qu'en diffusion régionale pour toucher dans notre région au global un public de plus de 107 000 participants. Cette aventure collective, c'est aussi la proximité, Didier l'a mentionné, que nous entretenons avec les acteurs du système éducatif comme avec ceux de l'enseignement supérieur depuis de nombreuses années. Cette proximité avec la sphère éducative s'est traduite par une convention avec le rectorat, fait unique en France d'un conventionnement entre un centre de culture scientifique et une académie. Convention qui s'articule autour de trois objectifs. Premièrement, la valorisation des sciences et la diffusion de la culture scientifique et technique sur tous les territoires et dans tous les établissements d'académie. En second, l'éducation à la citoyenneté. Et enfin, une mobilisation particulière sur les problématiques environnementales. Les liens forts et très variés avec l'Université de Poitiers ont été formalisés lors du renouvellement, il y a quelques semaines, de la convention déclinée selon trois axes complémentaires, que sont la diffusion, le partage de connaissances et de compétences, enfin l'information, l'action culturelle et éducative. Par ces liens historiques avec la communauté universitaire poitevine, nous contribuons à rapprocher le citoyen de l'université avec un double objectif de démocratisation et de rayonnement de nos établissements, et nous offrons aux chercheurs des espaces originaux d'expression. Vous aurez tout à l'heure, lors de la présentation du dernier numéro d'actualité, sans aucun doute, quelques mots sur cela par Jean-Pierre. Jean-Luc. C'était une des seules choses que je n'avais pas écrites. Voilà. Avec cette spécificité reconnue, avec son champ de compétences propres, notre centre est un acteur légitime aujourd'hui au sein de la communauté éducative et scientifique, comme l'atteste notre engagement pour l'une des priorités du schéma régional pour l'enseignement supérieur et la recherche. Il s'agit du continuum lycée-université qui a des enjeux forts, tant pour les universités de la région, mais aussi pour la diffusion et l'émancipation de chacun de nos enfants, ou notre implication au niveau du contrat plan État-région 2014-2020 en cours d'élaboration. Cette aventure collective, elle s'est organisée autour des différents bureaux qui se sont succédés pendant 25 ans. C'est une contribution importante de chacun des membres du bureau qui permet d'analyser les besoins nouveaux des publics, d'orienter et d'adapter nos actions. Le rôle au sein de ce bureau de certains collègues, à l'expérience longue des pratiques de notre maison, et à la légitimité scientifique incontestée et prépondérante. Le président de ce bureau a un rôle d'animateur au sein de cette instance et contribue au nécessaire lien entre les différents partenaires institutionnels ou scientifiques. C'est un réel plaisir que de présider cette maison depuis 5 années. J'aimerais ce soir rendre hommage, et Didier y avait pensé avant moi, aux 3 présidents qui m'ont précédé depuis la création de l'espace Mendès France, Christian Brochet, Yves Saint-Tempo et Jean-Claude Desoyers. Chacun de mes collègues a apporté sa pierre à l'édifice qui est aujourd'hui notre centre. Chacun a su élargir l'offre de l'espace Mendès France, innover dans la recherche de nouveaux outils de diffusion, proposer des formats nouveaux pour anticiper les attentes du public. Cette aventure collective, c'est aussi l'adhésion des collectivités territoriales à nos projets et leur soutien financier sans lesquels nous ne pourrions développer une offre aussi riche. Il me faut ici mettre l'accent sur le soutien important de 2 collectivités, le Conseil régional, dont la contribution est essentielle au maintien de notre belle revue d'actualité Poitou-Charentes, et la ville de Poitiers, par la mise à disposition de personnel et sa contribution conséquente permettant une programmation riche et si diversifiée. D'autres collectivités permettent par leur participation financière le développement de notre déploiement en région, qu'elles en soient ici remerciées. Enfin, cette aventure collective, c'est l'engagement de personnel permanent de notre centre, qu'il s'agisse des personnels mis à disposition par la ville de Poitiers ou des personnels salariés de l'association. L'effectif des personnels permanents de notre association était le même il y a exactement 20 ans, pour une fréquentation 3 fois moins importante et un nombre d'opérations, les actions que je nommais tout à l'heure, 2850 l'année dernière, 30 fois moindre, avec toujours le même nombre de personnels. On mesure alors l'engagement de ces personnels à la réussite d'ambitions partagées, personnels impliqués dans un projet global, la bonne santé de notre maison, la reconnaissance de la qualité de notre offre leur est grandement imputable. Mais nous savons tous que la réussite d'un collectif doit souvent beaucoup à celui qui imagine les stratégies, met en valeur les compétences individuelles, insuffle un réel projet. Ce coach-là, nous avons la chance de le côtoyer au quotidien depuis bientôt 23 ans. Rares sont les collectifs qui ont bénéficié pendant une aussi longue période d'un inspirateur, donc un très sincère merci partagée, j'en suis certain, par l'ensemble des présents ce soir, au directeur général de l'Espace Mendès France depuis 1991, à Didier Moreau, au projet ambitieux qu'il sait nous faire partager. Pour conclure, on a coutume de dire que le passage du cap des 25 ans correspond à la période de la vie où chacun doit faire des choix, les assumer. Ça dure ce que ça dure. Se poser, comme on dit. Bien, je peux vous assurer que notre centre n'est pas dans cette perspective-là de se poser. Nombreux sont ceux qui parlent de marque de fabrique Mendès France. Nous sommes, au fil des années, passés d'une offre d'information et d'explication, la vulgarisation au sens classique, à une relation authentique à la demande. Cette mutation méthodologique nécessite d'autres approches pour être au cœur d'un projet contemporain de diffusion où science, technologie et culture se trouvent tout à la fois objet de présentation, mais aussi objet de débat. La question de l'innovation, l'émergence de nouvelles pratiques, le souci de cerner les interrogations qui parcourent la société constituent la réflexion préalable à toute offre ou construction de notre centre. Si nous avons l'ambition de toujours élargir le public touché par nos actions, l'ambition d'un déploiement régional encore amplifié, chacun comprendra que nous n'envisageons nullement de nous cantonner à des pratiques routinières. En ce sens, nous ne faisons pas notre âge. Pas plus que l'esprit insufflé dans les questions scientifiques, que ce soit par Pierre Mendès France ou Hubert Curien. Je vous remercie de votre attention et avant la place à la table ronde, je demanderai à Jacques Centreau, dont la contribution est importante au niveau de cette maison, de sa naissance et de son maintien, de venir faire une brève intervention. Je vous remercie.
Mesdames, Messieurs, chers amis, j'ai perdu l'habitude de prendre la parole en public, donc tout le protocole passera. On m'a demandé, Didier m'a demandé de dire quelques mots sur les origines et la façon dont les choses s'étaient passées. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire, des choses amusantes, des choses moins amusantes, bref. En réalité, tout a commencé, quelque part en 1980, par une délégation d'un certain nombre de personnes qui, dans la suite de Pop Physique, Pop Santé, qui avait une certaine réussite sur la place d'Armes, sont venus me voir pour me dire « Mais enfin, il faudrait peut-être qu'on réfléchisse à voir si on ne peut pas rendre tout ça plus permanent et de façon plus matérielle, avoir un lieu où on ait une action plus longue que l'action qu'on a dans cette semaine. » Alors j'en ai oublié, mais à coup sûr, il y avait Christian qui menait la délégation et qui était une cheville ouvrière du système. Il y avait Michel Bourdet, j'en suis certain, Bernard Bourdet, Jean-Jacques, à coup sûr, peut-être de nos dons, je ne suis pas certain, je ne me souviens pas. Vous étiez une dizaine. Hein? Ils étaient déjà venus en nombre, et moi j'étais tout seul. Ceci étant, je pense qu'ils n'avaient pas besoin de me convaincre de ce qu'ils faisaient, parce que le résultat déjà de ce qu'on voyait était intéressant. Mais de là à passer à un bâtiment, une structure, le fonctionnement, ça me posait quand même quelques questions, dans une époque où il y avait déjà des tas de choses. Ben oui, Bernard, tu es là, excuse-moi. Tu vois, mais c'est l'âge. Il y avait des tas de choses qui étaient déjà engagées. Je rappelle que on avait déjà dans les cartons la médiathèque, Rivaux, etc. Et donc, budgétairement, et comme j'ai toujours été connu pour serrer un peu les boulons, je ne savais pas très bien comment j'allais présenter ça. Bon, mais ils m'ont assez convaincu. Et donc, j'ai fait une présentation assez rapide, assez sommaire en municipalité. Puis après, ils sont venus s'expliquer plus longuement. Et nous avons décidé que nous allions essayer de monter un programme et de voir ce que pouvait être un centre permanent. Alors ça n'a pas toujours été facile. On a mis du temps. On a réussi à définir quelque chose, à étudier des partenariats. Et puis, ça a mis à peu près 4 ans, cette première phase, hein, si mes souvenirs sont exacts. Et alors, nous sommes tombés au moment où nous allions nous lancer et où nous allions prendre les premières délibérations. Nous sommes tombés sur un phénomène important qui a pris une grande importance par la suite. C'est que le département et le président Monory étaient au même moment en train d'imaginer le Futuroscope. Et alors, je me souviens, comme si c'était aujourd'hui, il m'a convoqué, et parce que, au cours d'une réunion du Conseil général, j'avais émis l'idée qu'on pourrait voir si ces deux idées n'étaient pas complémentaires. Et il m'a convoqué pour que nous parlions, et il m'a dit, de toute façon, ça ne pourra pas marcher comme ça, parce que vous avez la folie des grandeurs, vous partez sur un bâtiment qui était déjà chiffré, tu t'en souviens, je pense, vous allez faire quelque chose de l'ordre de 35 millions, et nous, à Futurama, c'était comme ça que ça devait s'appeler à l'époque, nous envisageons un investissement de l'ordre de 7 millions. Nous, on a terminé autour de 40, eux, ils ont terminé autour du milliard, mais c'est plus du tout la même chose. Et donc, on a continué comme ça. Et c'est vrai, tu viens de le rappeler, toutes les collectivités n'ont pas participé de la même façon. Avec l'État, il faut reconnaître qu'à l'époque, à l'État, les ministres concernés, aussi bien à la recherche qu'à la culture, étaient tout à fait dans le mouvement et dans le système, nous ont aidés, bien évidemment. Et on a eu des accords relativement rapides. La région s'est fait à l'oreille, mais elle est venue assez rapidement. Et par la suite, elle s'est engagée, monsieur le vice-président d'alors, elle s'est engagée dans le fonctionnement à travers l'actualité. Mais avec nos collègues du département, effectivement, ça a été un peu plus long. Voilà un peu une première partie. Alors, il y a eu des moments amusants et tristes et durs. Là, imaginez-vous que nous avons lancé le concours d'architectes. Et dans le concours d'architectes, les gens qui étaient là ont éliminé une équipe qui s'appelait le bureau d'architectes Monge à Paris, qui était un Grand Prix de Rome et qui, en même temps, était celui qui avait rénové le musée de l'autre côté de la rue. Alors, la Direction régionale des affaires culturelles, mon directeur général des services techniques, ont défilé dans mon bureau et m'ont dit, mais monsieur le maire, ça ne va pas. Comment pouvez-vous concevoir un concours d'architectes en éliminant monsieur Monge, alors qu'il a parfaitement réussi de l'autre côté de la rue, que c'est un architecte connu sur le plan européen, voire mondial, et vous, à Poitiers, à un jury de 8, vous décidez Monge, zéro, ça n'existe pas, on ne veut pas voir Monge. Et donc, j'ai un peu tiré sur les textes. Je ne sais pas, peut-être qu'aujourd'hui, la jurisprudence étant tellement sévère que j'aurai peut-être quelques ennuis, je ne sais pas. En tirant sur les textes, et avec l'aide du directeur général de l'époque, pauvre M. Lambert, qui n'est plus là, on a tiré les ficelles et on a trouvé une solution pour réintroduire M. Monge dans le jury. Et quand on a dépouillé les offres et les projets, eh bien, à une très, très large majorité, puisqu'à l'époque, il a dû avoir 70 à 75% des voix du jury, c'est M. Monge qui a gagné le concours. Avec l'ennui, Didier a sans doute fait exprès de l'exposer, parce que là, on a dit, le maire, il est fou d'accepter un permis pareil. C'est une honte. Cette bulle au milieu des bâtiments du Moyen-Âge et puis de la Renaissance, ça ne va pas. Alors, c'est ce que je leur faisais valoir. Je leur disais, de toute façon, un bâtiment du 17e, il était incongru dans une rue du 15e. Et donc l'architecture, c'est quand même l'évolution de la ville. Oh oui, mais là, les gens disaient, c'est coton, hein. Et bon, alors, c'est passé quand même. Ça m'a valu beaucoup de discussions, d'algarades, de j'en ai entendu. Et alors, on doit reconnaître que ce n'est pas achevé. Parce que M. Mange n'a pas pu l'achever. M. Mange avait l'idée que ça serait une espèce de fontaine permanente à l'envers. C'est-à-dire qu'il avait imaginé qu'il enverrait de l'eau par le haut, qui serait récupérée en bas et qu'on aurait une espèce d'enveloppe d'eau qui coulerait en permanence et qu'effectivement, lui-même, ça l'avait choqué. Il n'avait pas pu l'enterrer davantage parce que le sol, si on s'était amusé à faire péter la roche, je ne sais pas ce que serait devenu la cathédrale. Et donc, il a fallu faire des compromis. Et le bureau d'études, par la suite, n'a pas voulu. Parce qu'il a dit à M. Mange, le bureau d'études a dit, nous, on est incapables d'assurer l'étanchéité totale sur une période de 20-25 ans. On n'est pas capable, dans une fontaine à l'envers comme ça, de vous assurer l'étanchéité de tout ça. Et donc, il a fallu que ça reste comme ça. M. Mange a proposé des tas de solutions, et l'architecte des bâtiments de France, qui s'était senti conforté par toutes les récriminations des habitants, m'a dit, monsieur le maire, c'est terminé, on mettra simplement une peinture assez neutre, et puis on plantera le plus de choses possibles au pied, tout le tour, et on espère que ça finira par rentrer dans l'environnement. Bon, alors, certains, beaucoup ont rêvé la faire sauter, mais enfin, si on le faisait sauter, le planétarium, quand même, ça ferait une activité qui disparaîtrait, ça serait peut-être un peu délicat. Voilà quelques anecdotes. Il y en a une autre qu'on ne peut pas passer sous silence, parce qu'on doit bien dire nos échecs aussi. C'est que malheureusement, monsieur le Président, nous avions l'association, et puis avec la participation des élus, a recruté un premier directeur qui n'avait pas tout à fait compris, je crois, le sens de la démarche, que nous avons réussi à faire partir avec beaucoup de difficultés parce qu'il s'accrochait, en nous laissant une ardoise pas négligeable, à tel point que quand je suis parti en 2008, 20 ans après presque, monsieur le directeur peut dire qu'on n'avait pas encore tout à fait reconstitué les fonds propres. Il devait encore manquer 70 000 euros. C'est pour dire qu'en 20 ans, on en avait récupéré, mais il y avait encore du manque à gagner dans la maison. Alors, effectivement, je n'imaginais pas, mais un beau jour, j'ai vu arriver dans mon bureau le directeur des services financiers, et qui m'a dit, avec qui je m'entendais bien, on s'engueulait pour préparer le budget, mais on s'entendait bien, et on se tutoyait. Enfin, je ne tutoyais pas tous les employés municipaux, mais j'en tutoyais quelques-uns. Et puis il me dit, Jacques, je viens de présenter ma candidature à la direction de Mendès-France. Alors là, j'étais assis, mais j'allais dire, il aurait pu m'asseoir. Parce que le voir passer de tout ce qu'il faisait en technique financière, et il était bon, dans l'animation de la maison, je lui ai dit, mais Didier, il m'a dit, fais-moi confiance, je le sens. Hein, tu te souviens? Tu m'as dit, je le sens bien. Mais j'ai dit, maintenant, si tu le sens et tu le sens bien, il va falloir que tu ailles convaincre l'association. Ce qu'il a sans doute fait, puisque il est encore là aujourd'hui, et je pense que personne n'a à s'en plaindre. Alors ça, c'est aussi une autre anecdote. Voilà. Alors après, ça s'appelait devenir. Manque de peau. Le directeur qui avait trouvé cette solution de venir n'avait pas vu que quelque part en France, je ne me souviens pas, à Lyon, je ne sais pas où, ou Saint-Étienne, il y avait déjà une association qui avait déposé ce nom et qui l'avait fait labelliser. Résultat des courses, on n'avait plus le droit de s'appeler devenir. Alors, je ne sais plus à l'époque comment c'est arrivé, Mendès France, mais il y a eu des gens qui y ont passé, et moi, c'était loin de me déplaire, vous en doutez bien. Et donc, on a pris la décision de Mendès France. Alors, j'en terminerai là, mais je veux dire un mot, sans gêner les orateurs suivants, parce que peut-être qu'ils l'évoqueraient, mais moi, je tiens à dire, au-delà de tout ce qu'on dit sur Mendès France, quelque chose de Mendès France que très peu de nos contemporains connaissent. Si vous avez un hôpital public moderne, si vous avez un hôpital public efficace, et les vieux Poitevins comme moi savent faire la différence entre ce qu'était l'Hôtel-Dieu et aujourd'hui, c'est à Pierre Mendès France qui le doivent, poursuivi d'un peu d'ailleurs par le gouvernement Guy-Mollet en 1956. C'est Mendès France qui, en 1954, devant ce qu'étaient les hôpitaux français, a eu l'idée de réunir une grande commission avec un certain nombre de professeurs éminents, parmi lesquels Jean Bernard, le professeur Debré et quelques autres que j'oublie, mais vous le direz ultérieurement. Et ce sont ces groupes d'études qui a proposé à l'époque à Mendès France et à Maurice Faure, qui devait être son ministre, je crois, l'idée qu'il fallait intéresser les jeunes médecins à une carrière différente de celle qu'on leur proposait à l'époque entre la faculté de médecine et l'hôpital. Et c'est eux qui ont inventé la biappartenance des hospitaliers, ainsi que quelque chose qui est très décrié aujourd'hui, mais à l'époque, ça a eu son utilité, et il y a encore quelques médecins qui l'utilisent, c'était la partie privative de leur service avec un certain nombre d'heures par semaine. Et c'est ça qui a sauvé l'hôpital. C'est ça qui a fait que les premiers médecins qui ont lancé Poitiers sont arrivés. Les Barbiers, les Sudres, tous ces gens-là sont arrivés à cette époque-là. Et grâce à ça. Alors ça a été un moment délicat parce que rien n'avait été voté en 1958. Et on a dit les lois Debré. Il n'y a jamais eu de loi Debré. Ce sont des ordonnances du général de Gaulle. Parce que le consortium des professeurs qui avait imaginé le schéma, connaissant les relations du professeur Debré, son fils et le général, ont convaincu le professeur Debré de convaincre son fils que c'était une solution. Vous vous rendez compte? Une solution comme ça, imaginée par des gens de gauche, de Gaulle n'avait pas du tout envie de faire une loi là-dessus. C'est la raison pour laquelle il a fini par plier à ce qu'expliquaient Debré, père et fils, avec l'aide des autres, et il a fait des ordonnances. Ça devait être des ordonnances de juillet 1958, quelque chose comme ça, si mon souvenir est exact. Et c'est là que l'hôpital a démarré. C'est là que l'hôpital est sorti du traditionnel hôtel-lieu que vous avez. Je peux raconter une anecdote. Et j'arrêterai, puisque la plupart de ceux qui ont pris part à cette histoire sont décédés, donc ça ne peut vexer que leurs descendants, mais à la limite... À l'époque, les enseignants de la fac, dont le premier, c'était d'ailleurs des enseignants remarquables. Il y en avait un, toute la génération de médecins de mon âge ne parlait que par lui en disant « notre maître, notre maître ». Mais notre maître, il était leur maître jusqu'à midi pour enseigner. Il passait quelques instants avec eux à l'hôpital pour voir quelques malades et direction la clinique jusqu'à 18h. Et il n'y avait plus rien à l'hôpital. Et l'hôpital vivait comme il pouvait. C'était ça en 60-62. Ça a duré ici jusqu'à l'arrivée des premiers profs que vous avez connus. Et donc, je crois que c'est vraiment quelque chose, au-delà de ce qui sera dit, que moi je tenais à dire, parce que, sincèrement, c'est un aspect de Mendès France. Mendès France et la recherche, Mendès France et l'enseignement, c'est quelque chose qui est parfois complètement oublié et peu connu. Et puis après tout, c'est normal que 58 et 50, ça fait 2008, oui, c'est ça. C'est vrai que 50 ans après... On n'y pense plus beaucoup, comme personne ne parle plus de salaire différé, tout le monde parle de charges sociales trop élevées. Vous voyez que j'ai gardé encore des petits trucs pour la fin. Mais c'est comme ça que ça s'est passé. Et à toute cette équipe, on leur doit vraiment beaucoup, beaucoup, parce que c'est vraiment eux qui sont les pères de notre hôpital d'aujourd'hui. Voilà, merci.
Bon, alors, d'abord, je voudrais dire que je suis très content d'être ici. Ça fait de nombreuses années que je viens, j'ai parlé ici, j'ai parlé aux amphis du savoir, j'ai fait d'ombres exploitées de façon éhontée. Mais finalement, c'est toujours un plaisir d'être là. En plus, ma mère était de Saint-Mexant-l'École, donc j'ai toujours l'impression de revenir un peu chez moi quand je viens ici, et c'est bien agréable. Bon, alors, je suis censé ouvrir la table ronde. Alors, pour ouvrir une table ronde, je me suis dit que j'allais préciser 2-3 mots de vocabulaire pour qu'on se mette à peu près d'accord. Et puis après, je ferai un peu d'histoire. Un peu d'histoire, c'est-à-dire que comme mes amis doivent parler de Mendès et de Curien, moi, je parlerai avant Mendès et après Curien. C'est-à-dire, je verrai aux deux bouts, simplement pour donner une idée d'un certain style d'évolution qu'il y a eu, disons, dans les politiques de la recherche. Ce sera très neutre et tout à fait détendu. Hein. Mais c'est pour inciter à la discussion après. Hein, voilà. Alors, cela étant, quand on parle du mot recherche, moi, je vais déjà en donner une définition simple, hein, parce que c'est bien, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde ait la même chose en tête. Donc, j'aime bien la donner de façon qu'on puisse parler après de politique de la recherche et de savoir quoi on parle. Alors, pour moi, la recherche doit être comprise comme une activité libre et non orientée, sans finalité a priori, bien que toujours inscrite dans un contexte, un cadre général ou une perspective. C'est-à-dire, ce n'est pas n'importe quoi, mais ce n'est pas non plus quelque chose qu'on vous dit de faire. Hein? C'est une nuance. Et elle est questionnement et approfondissement des connaissances. Voilà. Fondamentalement, la recherche, c'est cela. Alors, il y a d'autres termes sur lesquels je ne reviendrai pas parce que vous les connaissez bien. Il y a l'enseignement. Bon, mais l'enseignement, tout le monde sait, c'est la formation, formation des jeunes. Il y a les diffusions. Ici, je ne vais pas parler de la diffusion puisqu'il n'y a que des professionnels de la diffusion et de l'information scientifique et technique. Alors, l'information scientifique et technique et la diffusion, ce n'est pas l'enseignement. Il ne faut pas confondre les deux. On a parfois tendance, aujourd'hui, dans les milieux pédagogiques, à confondre un peu les deux. Je pense qu'un bon enseignement permet de bien profiter de la formation et de la diffusion après. Je crois que c'est ça. On ne peut pas former les gens uniquement avec la diffusion. Ça, j'en suis absolument convaincu. Et il ne faut donc pas confondre les genres. Voilà. Et puis, il y a une autre chose qui est très importante. Ça permettra de faire les premiers mots d'histoire. C'est ce qu'on appelle la valorisation. Recherche et valorisation. Alors, on attache aujourd'hui un poids considérable à la valorisation, hein, sous la dénomination d'innovation et de transfert de technologie. Hein, c'est comme ça, on appelle ça comme ça. Il n'y a là, au premier regard, rien de neuf. On se souvient à la fin des années 60, on commence à faire d'histoire, fin des années 60, de l'ANVAR, Agence nationale de valorisation et de recherche, qui avait été créée donc sous le gouvernement de Gaulle. Puis aussi ce qu'on appelait l'écrin qui rassemblait des chercheurs et des industriels, puis les PIR, les programmes interdisciplinaires de recherche. Donc toutes ces choses-là avaient à voir avec la valorisation. Bon, alors on peut se dire, bon, aujourd'hui, s'il n'y a rien de neuf, tout a cependant changé sur le plan quantitatif et dans le style. Aussi, avant d'aller plus loin, je voudrais encore faire quelques remarques de vocabulaire parce que c'est important de savoir de quoi on parle. Et puis, je ne reviendrai pas sur ces mots. Les mots ont leur importance. Nous sommes passés d'une langue, disons, d'une logique de la valorisation, logique présente jusque dans la LRU, la loi Liberté et Responsabilité des universités de 2007, que tout le monde connaît bien, il était question de valorisation, à une logique de transfert. Dans la nouvelle LRU, ou ESR, correspondant à la loi Fioraso, il est question de transfert. Alors, l'idée n'est pas la même, pas du tout. En principe, il ne s'agit plus de chercher travail de chercheur, puis de voir si les résultats ont un intérêt dans le monde de la production marchande, mais de faire des choses directement exploitables que l'on peut donc transférer dans l'industrie. Le rôle des laboratoires n'est plus le même. Au dire même des industriels, d'ailleurs, au peu que je sache, le concept ne fonctionne pas parce que ça ne marche pas comme ça, ils en sont convaincus, moi aussi, mais il y a plus grave. Le style de la politique scientifique a bien changé et la place des chercheurs en devient peu claire. Qu'est-ce qu'ils font? Ils deviennent des ingénieurs? Ils deviennent des techniciens? Qu'est-ce qu'ils font, ces hommes? Ils font de la connaissance ou pas de connaissance? Bon. En un mot, la valeur connaissance ne serait-elle pas passée à la trappe, tout autant que la recherche libre et non orientée par la même occasion? Alors, dans ce cas-là, on peut se poser la question, ce qui en est de la liberté indispensable pour la recherche? Bon. Voilà. Alors, ça, c'était un petit peu de vocabulaire pour m'aider à réfléchir sur les évolutions implicites, mais fondamentales, quant au travail de chercheur ou d'enseignant-chercheur. Je dirais chercheur ou enseignant-chercheur, je dirais chercheur, c'est plus court, mais pour moi, c'est les mêmes personnels. Alors, je vais refaire un peu d'histoire maintenant, pour caler un peu ça. Alors, sans remonter au début du XXe siècle, on peut dire qu'après de multiples vicissitudes, c'est le moins qu'on puisse dire, là, j'ai le spécialiste des vicissitudes, Denis Gutleben, de multiples vicissitudes, une politique de la recherche, de l'enseignement et de la diffusion scientifique a vu le jour sous le Front populaire, en particulier sous l'action de Jean Perrin et de Jean Zay. Le décret de création, alors je vais donner quelques dates, ça fixe les choses, le décret de création du CNRS est signé le 19 octobre 1939 et journal officiel du 24 octobre. Vous voyez, la date est quand même assez intéressante. Le Palais de la Découverte, lui, a été créé en 1937 dans le cadre de l'exposition internationale. Donc on voit conjointement, y compris également pas sous l'impulsion de Jean Perrin, donc on voit à une certaine époque création d'un centre de recherche et en même temps de la diffusion et aussi ce qu'avait en tête Jean Perrin, c'était à la possibilité de formation pour ceux qui n'avaient pas pu faire des études, qui avaient dû arrêter les études, de pouvoir aller au fameux Palais de la Découverte pour reprendre un peu d'études. Donc c'était pas que de la diffusion, c'était autre chose qui était envisagé. Il y avait un peu de travail de formation permanente. Ben alors, avec la création du CNRS, il s'agit principalement de créer de nouveaux lieux ou d'étendre les activités de certains laboratoires, publics ou privés, de recherche scientifique pure ou appliquée. Alors, c'est intéressant parce qu'à l'époque, c'était application. Après, on a eu droit à valorisation. Et maintenant, on a droit à innovation et à transfert. Tout ça, c'est pas neutre. Donc, il s'agissait aussi d'encourager et de coordonner les recherches, et spécialement en 1939, des recherches pour la défense nationale. Bien, et puis aussi d'aider les savants en difficulté et de préparer la mobilisation scientifique. Donc, c'était aussi une politique de préparation à la guerre. Le 10 juillet 1940, là, je vais aller vite pour l'histoire, le 10 juillet 1940, un vote des parlementaires met fin à la République. Le 8 août 1940, Charles Jacob prend en main le CNRS. Alors, il sera nommé un peu plus tard définitivement, mais Charles Jacob prend en main le CNRS. Il ne le détruit pas. Le CNRS conservera son existence pendant la guerre. On pourra répondre à une question là-dessus, mais c'est pas. Et un nouveau texte de développement du CNRS est mis en place. C'est la loi 1069 du 10 mars 1941. Alors, c'est une nouvelle organisation du CNRS. Cette nouvelle organisation du CNRS est tout à fait intéressante parce qu'elle est marquée par un style totalement antidémocratique. Tous les pouvoirs sont entre les mains de Jacob et dénommés partout, plus d'élus. Bon, je ne parle pas d'aujourd'hui, hein, je parle de cette époque-là. Donc, dénommés partout, plus d'élus. Voilà. Frédéric Joliot est nommé à la tête du CNRS le 20 août 1944. Après un an de discussion et de rencontres, une nouvelle organisation du CNRS et de la recherche est définie par l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui est un exemple d'organisation démocratique et républicaine pour la recherche et l'enseignement supérieur. Alors, je voudrais m'attarder un petit peu sur cette ordonnance du 2 novembre 1945, parce que c'est elle qui conditionne le fonctionnement, disons, du CNRS, mais aussi de la recherche dans son ensemble, des laboratoires, pendant de très longues décennies. Évidemment, il y aura des difficultés, mais c'est quand même ça qui fait le cœur de la machine. Donc, cette ordonnance est signée le 2 novembre 1945 et c'est signé de Charles de Gaulle pour le gouvernement provisoire de la République française, de René Capitan, ministre de l'Éducation nationale, et de René Pleven, ministre des Finances. C'est un gouvernement de coloration diverse. Voilà. Alors, en dépit de quelques nuances, ce texte représente effectivement les discussions qui avaient eu lieu pendant un an, et des discussions extraordinairement démocratiques, puisque Joliot réunissait tout le monde, faisait discuter tout le monde, et les débats étaient énormes, et un jour, il y a cette parole célèbre, « Mais monsieur Joliot, avec votre organisation, vous voulez nous mettre les savants en république ?» Et il a répondu « Exactement, c'est cela que je veux faire. » Donc c'est une république des savants qui se met en place, des savants, des enseignants-chercheurs, des chercheurs. À l'époque, on n'employait pas tous ces termes-là. Alors, je vais en donner quelques éléments. D'entrée, c'est pour faire des différences, c'est bien de voir les choses par nuance. D'entrée de jeu ou presque, le long développement consacré à l'exposé des motifs souligne, je cite, « qu'en ce qui concerne le fonctionnement du centre, la présente ordonnance tend à associer étroitement à la vie de l'établissement les savants et les chercheurs les plus représentatifs de la science française. La réunion de ces personnalités constituera un comité national de la recherche scientifique, divisé en sections correspondant aux divers domaines de la recherche pure et appliquée. Le comité national aura pour mission essentielle de définir en session plénière la ligne générale des recherches et des méthodes de travail. À chaque section incombera la tâche d'orienter et de développer les recherches relevant de sa compétence. » Ce comité national avait pour objet non pas d'être un comité national du CNRS, ce qu'il n'est toujours pas d'ailleurs, il existe toujours, mais dans des fonctionnements, un rôle tout à fait différent. C'était un comité national de la recherche scientifique pour l'ensemble des activités scientifiques en France. C'est-à-dire, c'était la communauté de ce qu'on appellerait aujourd'hui enseignants-chercheurs et chercheurs qui se réunissaient en un comité national. Ainsi, c'est moi qui reprends, les savants et les chercheurs réunis en session plénière sont bien collégialement responsables de la ligne générale des recherches et des méthodes de travail. Alors, cette perspective est confirmée dans la suite par le passage concernant le rôle et les attributions du comité national. Là, évidemment, on peut rêver, voilà ce qui, et c'est comme ça que ça a fonctionné. Ainsi, je cite, « le comité national ne sera pas un organisme purement consultatif, mais constituera une assemblée délibérante et agissante qui assumera de véritables responsabilités et participera activement, par l'intermédiaire de ses sections et de ses commissions composées de membres de diverses sections, à la réalisation des programmes généraux élaborés en séance plénière. » Je signale bien, donc il n'est pas consultatif, c'est une assemblée délibérante, c'est-à-dire qui prend des décisions collectives et évidemment totalement transdisciplinaires, puisque toutes les disciplines sont réunies. L'interdisciplinarité est un truc évident, on en fait un bruit considérable aujourd'hui, ça existait normalement, d'ailleurs ça existe depuis plusieurs siècles, mais bon, on croit que c'est toujours nouveau. Bien, en outre, c'est au directoire, l'organe exécutif souhaité par Frédéric Joliot, qui est dévolu la direction scientifique de l'établissement. Alors, c'est un directoire choisi parmi les membres du comité national assurera de façon permanente la direction scientifique du centre. C'est-à-dire que le directoire est directement issu de l'assemblée collégiale de l'ensemble des chercheurs et enseignants-chercheurs de la communauté, qui produit un président qui est directement issu. Donc, c'est une structure que je dirais profondément démocratique et républicaine. Bien, quant au conseil d'administration, il est lui aussi fabriqué à partir de membres du directoire, plus des administratifs. Alors, les dernières lignes de l'exposé des motifs rappellent une nouvelle fois le sens profond de ce que doit être le fonctionnement d'une recherche à la fois républicaine et démocratique. Non, mais c'est pour dire que ça existait. Hein. Je cite, « En associant à l'activité de l'établissement les savants et les chercheurs les plus qualifiés et les plus actifs, en faisant d'eux non plus de simples conseillers, mais des collaborateurs réels, cette ordonnance introduit dans le statut de la recherche un nouvel élément de force et de cohésion. On est en droit d'espérer qu'il contribuera à rendre à la France, dans le domaine de la science, un rang digne de sa grandeur retrouvée. » Donc, ce n'est pas pour faire n'importe quoi. On crée une instance de cette manière, on fabrique la science de cette manière pour résoudre les problèmes, disons, de la grandeur et de l'indépendance nationale. C'était ça qui était derrière. Alors, une mention particulière doit être faite aussi dans l'exposé des motifs où on va encourager une formation des jeunes. C'est-à-dire que le CNRS va s'engager aussi, je dirai après, je ferai quelques remarques, parce que les jeunes chercheurs, enfin les jeunes étudiants de l'époque, ceux qui avaient des licences, lorsqu'ils rentraient dans les laboratoires, n'étaient pas du tout opérationnels. Ils ne le sont toujours pas maintenant, mais maintenant on s'en fiche. Donc ils étaient toujours pas. Mais on avait prévu au CNRS une formation qui permettait de leur apprendre ce que moi j'appellerais les savoirs tacites, c'est-à-dire comment on est dans un labo, comment on manipule les choses, c'est-à-dire comment on apprend de ceux qui sont déjà là à monter des manips. Voilà. Ça ne se fait pas comme ça. Voilà, il y avait tout ça. Après, on crée les sections, tout est là. Alors, le 4 février 1946, je continue mon histoire, Georges Tessier, professeur à la Sorbonne, directeur de la section marine de Roscoff, est nommé en remplacement de Frédéric Joliot. Frédéric Joliot prend alors la direction du CEA, qui vient d'être créé, et Georges Tessier va devoir mettre en œuvre la République de la recherche, puisque c'est comme ça qu'elle était appelée à l'époque. Alors, la tâche qui l'attend est très difficile. Et évidemment, les questions que je vais poser là sont les questions qui vont occuper la politique de la recherche dans les décennies suivantes. D'abord, comment instituer l'enseignement préparatoire de la recherche sans soulever des polémiques avec les universités et les écoles ? C'est un problème un peu récurrent, mais là, c'est un problème assez vif. Comment assumer sur le plan national la politique de coordination d'une recherche dispersée sur le territoire et dans les divers ministères ? Ça n'a jamais absolument fonctionné. Chaque ministère voulant garder ses laboratoires avec une avidité considérable. Bon, c'est comme ça, mais l'orientation était là. La recherche est rattachée à l'éducation nationale. Et pourquoi pas, comme cela avait été envisagé, à l'industrie ou même directement à la présidente du Conseil. Tout a été envisagé et vous constatez que suivant les ministères, ça change les rattachements. Ça a continué comme ça encore maintenant. Bon, la politique et les objectifs sont ambitieux. Les financements et les recrutements des personnels pourront-ils suivre ? Je dirais qu'il y a des hauts et des bas. Il y a eu beaucoup de bas. Bien. Ces interrogations vont pour une large part nourrir les polémiques et les attaques dont le CNRS, en particulier, sera l'objet au cours des années suivantes et, si l'on peut dire, jusqu'à aujourd'hui. Mais le CNRS avait été attaqué avant même qu'il soit créé. Donc c'est une histoire un peu normale, ça. Il n'en reste pas moins. L'ordonnance de 1945 en porte témoignage qu'une organisation de la recherche couvrant pour l'essentiel l'ensemble des disciplines, il ne faut pas oublier que dès d'entrée de jeu, le CNRS a des laboratoires de sciences humaines et sociales. C'est-à-dire que l'ensemble des disciplines est à l'intérieur du CNRS. On a toujours l'impression que c'est simplement des maths et de la physique, voire de la biologie. Non, c'est tout dès le début. Voilà. Alors évidemment, il va y avoir des modifications, mais tout est là dès le début. Et donc, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire de rassembler dans un seul organisme l'ensemble des disciplines. Alors, donc, montre qu'une organisation de la recherche couvrant pour l'essentiel l'ensemble des disciplines, à la fois démocratique et républicaine, est possible, puisque ça existait. Donc, c'est possible. En outre, dans les années suivantes, le comité national sera composé de membres élus. La première fois, non, parce que comme c'était au moment de la libération, bon, il y avait un certain nombre de problèmes avec certains collègues qui avaient, disons, été plus... Bon, ils n'avaient pas tous été de la même... Disons, résistants de la même manière, si je puis dire. Bon, donc, mais dès les deux années suivantes, c'est une élection du comité national composé de membres élus en majorité et de membres nommés pour créer un équilibre. Bien. Donc, c'est une sorte de parlement de la recherche qui se met en place et qui va fonctionner. Alors, cette nouvelle organisation de la recherche française a été très féconde, de telle sorte que la France est devenue sous l'impulsion de Pierre Mendès France, dont on parlera tout à l'heure, et aussi sur l'impulsion économique et politique de Charles de Gaulle. Il n'aura pas le même rôle. D'un certain point de vue, les idées sont de Mendès France et la mise en forme est de Charles de Gaulle. Mais enfin, bon, bref, on en parlera tout à l'heure. C'est simplement pour faire l'histoire. Et entre autres, une grande puissance scientifique et industrielle. Donc ça a marché. Au troisième rang mondial, à la fin de la période gaulliste, nous avons d'abord très lentement reculé. Bon. Pour nous enfoncer ensuite dans les classements au-delà de la 10e place depuis une dizaine d'années. Je serai discret sur la place réelle, ne voulant pas choquer tout à chacun ici. Je parle des budgets accordés à la politique de la recherche. Alors, qu'observe-t-on aujourd'hui concernant la politique scientifique ? On peut se dire, alors, je vous ai donné un exemple, ça a marché d'une certaine manière, ça a donné des résultats, de beaux résultats. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour répondre à des difficultés ? Alors, d'abord, on y répond par une baisse des financements, en particulier des financements récurrents, qui permettent le travail de fond sur le long terme dans les laboratoires, ce qui était l'orientation initiale. Pour travailler dans un laboratoire, il faut de l'argent sur le long terme. Ce n'est pas en donnant des coups de pouce de temps en temps. Certainement pas. Et ne pas le faire, c'est l'assèchement des nouveaux résultats pour l'avenir, puisqu'en ce moment, on est en train de profiter des résultats d'il y a 15 ou 20 ans. Donc, on verra dans 15 ou 20 ans ce qui se passera. Bon, ça, c'est le premier point. Ensuite, une multiplication de la précarité et la disparition progressive des postes stables ou statutaires. Et à mon avis, cela est très grave, non pas parce que je suis un forcené de la fonction publique, mais simplement pour des raisons pratiques. Tout simplement pour des raisons pratiques, parce que c'est la transmission des savoirs et des savoir-faire qui ne se fait plus dans les laboratoires. C'est-à-dire, un jeune chercheur, il n'est pas là simplement pour passer d'un laboratoire à un autre, c'est-à-dire voyager à travers toute l'Europe successivement avec des post-docs, des bourses et des trucs comme ça, jusqu'au moment où on le dégage et il fera autre chose, chauffeur de taxi ou que sais-je. Mais il doit, dans le laboratoire, être là avec ceux qui y sont déjà, travailler avec ceux qui y sont déjà pour apprendre les savoir-faire et comment manipuler. C'est tout. Il faut être clair, que ce soit en mathématiques ou dans n'importe quelle autre discipline, il doit y avoir une transmission des savoirs entre les générations. Elle ne se fait plus du tout. Et on en paiera très cher. Pour certaines études qui ont été faites au CEA, on a fait revenir les retraités. Je ne ferai pas de commentaire là-dessus, parce qu'évidemment, les autres ne sont pas formés, parce qu'ils n'ont pas le temps. Vous ne pouvez pas être formé quelqu'un en le faisant passer d'un laboratoire à un autre. Ça n'existe pas. Bon. D'ailleurs, en 1945, c'est ce à quoi ils avaient pensé, c'est-à-dire qu'ils disaient, bon, on va garder les gens, on va les former un petit peu et les laisser dans le laboratoire quelque temps pour qu'ils apprennent le métier. Le métier s'apprend sur le long terme. Alors ensuite, on a affaire à un dirigisme étatique qui rappelle des fonctionnements et des périodes passées dont on n'imaginait plus le retour. Alors une ANR, vous connaissez bien, une Agence nationale de la recherche, composée de membres nommés exclusivement, ça me rappelle quelque chose, et distribuant sur projet, dans une belle opacité, ça on ne peut pas dire le contraire, les budgets sur des programmes déterminés d'en haut et sur le court terme. Des sommes faramineuses. Une AERES, devenue, pas tout à fait encore, mais presque, HERES. En ce moment, il y a des débats pour savoir comment ça sera. Bon, à mon avis, ça sera pareil. Composé de membres nommés, tous, évaluant hors de toute collégialité, j'en ai fait partie, les équipes sur des critères qui ont été mis en cause par l'ensemble de la communauté et même par l'Académie des sciences, ce qui est quand même pour d'autres raisons, mais elles l'ont mis en cause. Bon, donc c'est tout dire. Donc, cela induit une dévalorisation extrême des instances élues et collégiales, que ce soit le Comité national de la recherche scientifique, dont on a parlé tout à l'heure, qui était délibérant et qui est strictement consultatif, et encore, on ne le consulte plus beaucoup, et ça sert plutôt à élire des nouveaux collègues, c'est tout pour la politique. Non, ce n'est pas votre problème. Bon, évidemment, bon, ce n'est pas notre problème. Bon. Et aussi le Comité national des universités, le CNU, que l'on a d'ailleurs failli supprimer il y a 6 mois au Sénat. Mais ils ont raté le coup, ils voulaient le supprimer. Ah, on s'est trompé, c'est parce qu'on voulait. Bon, enfin bref, il est encore là, mais à mon avis, son existence est précaire. Bon, il y a aussi une chose qui est l'apparition du management à l'université et au CNRS qui conduit à un dirigisme, mais qui devient quelque chose d'extraordinaire et qui me semble tout à fait contraire à la vie scientifique et intellectuelle. Totalement contraire. Et puis, bien sûr, pour le tout, ce dont j'ai parlé au début, le rôle privilégié à l'innovation sur la recherche et le développement des connaissances. C'est-à-dire que, pour caricaturer un petit peu, on prend 45, on regarde aujourd'hui, c'est le positif et le négatif. Bon, eh ben on verra ce que ça donne. Dans 20 ans, celui qui viendra parler là, on verra ce qu'il dira. Donc, une politique donc en opposition complète avec celle construite en 1945 et dont l'efficacité a été prouvée pendant plusieurs décennies, soit par ses réussites, tant sur le plan industriel, de très belles réussites, que sur celui de la recherche et des connaissances, puisque sur le long terme, cette politique a permis d'avoir des prix Nobel et de nombreuses médailles Fields en mathématiques. Je pense que ça ne va pas continuer. Bien. Alors, je vais finir par une petite provocation. J'en ai pas fait jusqu'à maintenant, je peux bien en faire une. Donc, je constate qu'en voulant faire de l'argent vite, c'est ça l'innovation, en voulant faire de l'argent vite et de la fausse croissance, parce que c'est du demi-point de PIB. Le demi-point de PIB, c'est bien aujourd'hui, et dans 10 ans, ça sera quoi, le demi-point de PIB, quand plus personne sera capable de lire même les ouvrages scientifiques, puisqu'on ne les aura pas formés. Bon, on sacrifie la recherche et on conduit la nation à n'être plus, comme le disait déjà Joliot-Curie, à n'être plus qu'une colonie. Je vous remercie.
Bon, ben, la table ronde est ouverte et les débats vont pouvoir s'engager.
La République a besoin de savants. Leurs découvertes, le rayonnement qui s'y attache et leurs applications contribuent à la grandeur d'un pays. Or, les crédits de la recherche sont dérisoires. Mesdames et messieurs, chers collègues, chers amis, chers élus également, merci de votre invitation à participer à cette soirée d'échange autour de l'histoire de la politique de la recherche scientifique en France, qui nous emmène 25 ans en arrière, hein, au moment de la fondation de l'espace Mendès France de Poitiers. Alors, on a découvert tout à l'heure les coulisses de cette fondation de l'espace Mendès France, des coulisses et des tribulations initiales qui nous ont emmenés quand même, si j'ai bien compris, à la limite de la légalité. Donc l'historien que je suis évitera de travailler sur l'histoire de cette période pour ne pas ressortir des cadavres des placards, sait-on jamais. Alors, en revanche, 25 ans, ça ne suffit pas à mon propos. Je me tourne alors vers le thème de cette soirée, c'est 50 ans de recherche et de diffusion. Eh bien, 50 ans, cela ne me suffit pas davantage. Je vais donc surenchérir sur les dates, c'est le moins qu'on puisse attendre d'un historien, et vous proposer d'explorer une période plus longue dans laquelle s'ancre l'action de Pierre Mendès France en faveur de la recherche. Car, et vous l'avez sans doute bien compris, la déclaration que j'ai citée en prenant la parole, bien qu'elle semble parfaitement intemporelle, hein, c'est sans doute bien triste, en tout cas pour la question des crédits dérisoires accordés à la recherche, mais c'est ainsi. Cette déclaration est sortie de la bouche de Pierre Mendès France. Nous sommes le 3 juin 1953. Il y a 60 ans, donc, hein, première surenchère dans les dates, et le député de l'Eure monte à la tribune de l'Assemblée nationale pour solliciter l'investiture de président du Conseil. Alors, bien sûr, son constat sur la situation peu favorable de la recherche est loin d'être son seul propos, hein, ce jour-là, le 3 juin 1953. En revanche, sa référence historique, elle est très claire. Cette phrase, elle vient répondre à quelques 160 ans de distance. Hein. Là, c'est une très grosse surenchère, mais rassurez-vous, je ne vais pas m'y attarder. Vient répondre au président du tribunal révolutionnaire qui avait condamné Lavoisier en 1794 en affirmant que la République n'avait pas besoin de savants. Hein. À l'époque, un des confrères de Lavoisier s'était horrifié. Il ne leur a fallu qu'un moment pour faire tomber cette tête et 100 années ne suffiront pas pour en retrouver une semblable. Alors si nous fermons cette parenthèse révolutionnaire et revenons à juin 53, il n'est pas courant à l'époque de voir la cause de la recherche scientifique défendue avec autant d'ardeur jusque sur le perchoir de l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si c'est plus courant aujourd'hui, peut-être qu'on va échanger sur ce point avec Michel Blais. Vous verrez que nos deux interventions sont un peu complémentaires, on ne les a pas préparées ensemble, hein, ce n'est pas la première fois qu'on ne travaille pas ensemble. On n'est pas d'accord sur un certain nombre de points. Ça non plus, ce n'est pas la première fois qu'on ne sera pas d'accord sur un certain nombre de points. Mais pas sur la politique de la recherche. Oui, encore qu'il... Bon, on verra, on verra. Alors, d'autant plus qu'à ce moment-là, en juin 53, le contexte national et international, avec notamment la situation toujours plus difficile que la France connaît en Indochine, impose d'autres priorités à Mendès. C'est la raison pour laquelle cet appel en faveur de la recherche, même s'il est noyé dans un long discours consacré à la situation intérieure et extérieure de la France, ne passe pas inaperçu. Alors, à la surprise générale, en juin 53, Pierre Mendès-France n'obtient pas l'investiture de président du Conseil. Ce n'est que partie remise. Mais sa déclaration en faveur de la recherche, elle aura des suites très concrètes et sur le long terme. Alors, avant de les passer en revue, je vous propose tout d'abord de nous tourner vers les bases sur lesquelles repose cet engagement mendésiste. Alors, ces bases, elles ont deux origines. Une origine, on peut dire, lointaine, et puis une origine beaucoup plus proche, plus immédiate. Lointaine tout d'abord, jeune député de l'heure, il avait été élu, Mendès-France avait été élu en 1932 à l'âge de 25 ans, c'est jeune pour un député, même sous la Troisième République, il avait suivi de très près l'action entreprise à partir de 1936 par le gouvernement de Front Populaire, qu'il soutenait ardemment en faveur de la recherche scientifique, Michel vous en a dit quelques mots tout à l'heure, et en particulier des deux personnalités qui ont alors le plus marqué ce domaine, Jean Perrin, prix Nobel de physique, désigné en 1936 par Léon Blum au sous-secrétariat d'État à la recherche scientifique, et Jean Zay, son ministre de tutelle, ministre de l'Éducation nationale, à l'âge de 32 ans d'ailleurs, en 1936, c'est une époque où visiblement on donnait beaucoup de chance aux jeunes. Et l'empreinte d'ailleurs profonde laissée par Jean Zay à l'Éducation nationale, une empreinte qui perdure jusqu'à nos jours, prouve que cette chance, elle n'était pas complètement imméritée. Alors une foule de décisions importantes elles avaient été prises à l'époque, une foule d'actions avaient été entreprises aussi. C'est un vrai déchirement pour moi, parce que le temps va très vite passer, je ne pourrais pas revenir sur cette période du Front Populaire que vous avez de toute manière très bien évoquée, Michel, ça c'est la brosse à reluire rapidement. Mais puisqu'on... Oui, c'est ça, c'est le directeur de mon unité, d'où les fréquents échanges de non-travail, mais en revanche de confrontation. Donc nous, on se réunit quand même autour de la recherche scientifique et de sa diffusion. Donc là encore, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Du côté de la recherche scientifique, c'est la création du CNRS, enfanté par le Front Populaire, pas né sous le Front Populaire, mais dont les bases avaient été lancées à ce moment-là. Et puis du côté de la diffusion, en effet, la création du Palais de la Découverte, ce n'était pas rien non plus dans le contexte de l'époque. Quant aux origines immédiates de la pensée de Mendès, elle découle en partie de cette expérience du Front Populaire qu'il a suivi de près et dont il entend très bien s'inspirer au milieu des années 50. Alors d'une part parce que gravitent autour de lui un certain nombre d'hommes, je devrais dire, et de femmes pour faire parité, mais hélas ce n'était que des hommes, d'hommes qui ont été associés dans les années 30, par exemple le physiologiste Henri Laugier, le minéralogiste Henri Longchambon, qui le conseille, Mendès-France, dans les années 50, et qui, dès les années 30, avait occupé des fonctions très importantes à la direction, notamment, du CNRS. Et d'autre part, parce que Pierre Mendès-France s'est persuadé, comme l'avaient été les hommes de 36, que la recherche de 1936, que la recherche n'est pas seulement une œuvre de connaissance et de libération pour l'homme, mais qu'elle peut également être un puissant stimulant pour l'économie, sans justement toujours percevoir qu'il peut exister une sorte de discordance entre ces deux conceptions. Peut-être que justement, puisque Michel a tiré à boulet rouge sur cette question-là, on y reviendra pendant les échanges. Je ne vous ai pas trouvé si équilibré que ça, moi. Dans la foulée de son discours de juin 1953, Mendès-France est contacté par la revue La Nef, alors qu'il prépare pour l'année suivante un numéro spécial sur le thème « La science et l'homme ». Il est le seul politique à être contacté, à être sollicité par la revue à ce moment-là. Alors, dans son article intitulé « Réflexion d'un homme politique sur l'enseignement supérieur », il n'y va pas avec le dos de la cuillère, et ce, dès les premières phrases. Je vais me permettre de lire quelques passages, enfin, en tout cas, l'ouverture de cet article. « Nous n'avons pas eu de prix Nobel de la science depuis 1935. » On est en 53, donc, quand il écrit ça. « Or, si une nation qui a perdu une partie de sa puissance matérielle peut se relever et se reconstruire, elle est vouée à la décadence si elle perd sa vivacité intellectuelle. Et d'autre part, un économiste soucieux de la propriété matérielle, industrielle et agricole du pays, de sa position dans la compétition internationale, ne peut être que préoccupé par l'insuffisance de nos efforts et de nos résultats dans l'ordre de la recherche, germe et ferment de tous les progrès, proches ou lointains, de la production comme de la productivité. Alors toujours ces deux préoccupations, en somme, celle, on pourrait dire, désintéressée de la connaissance, de l'intelligence, et puis celle beaucoup plus utilitaire, en fait, hein, de l'intérêt pratique, de l'intérêt, pas forcément immédiat d'ailleurs, ça peut être un intérêt à long terme, justement, de la recherche scientifique. Je précise au passage, hein, si tant est que l'histoire peut parfois venir nourrir nos réflexions actuelles, que ces deux aspects sont placés sur un pied d'égalité par Mendès France. Hein, le côté, l'aspect désintéressé, connaissance et intelligence, et puis l'aspect production et productivité. Alors que, en effet, là, je vous rejoins, dans les discours qu'on entend depuis un certain nombre d'années, voire peut-être même un certain nombre de décennies déjà, il y a une sorte d'asymétrie qui s'est introduite entre ces deux aspects. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mal, contrairement à vous, Michel. Je n'ai pas dit que c'était bien ou mal. Ah, on a pu lire entre les lignes quand même, hein, entre les mots. Je me contente juste de le constater.
J'ai défini ce qu'on entendait par recherche.
Oui, d'accord. On n'est pas encore à la discussion, là, attendons. Alors, le numéro de la Nef paraît début juin 54. Quelques jours plus tard, Mendès France devient, cette fois-ci, président du Conseil. La coïncidence, elle est assez formidable, hein, et on pourrait imaginer qu'elle aura des conséquences très directes sur l'action du nouveau président du Conseil, du nouveau chef du gouvernement. Sauf qu'il y a d'autres coïncidences qui ne jouent pas dans le même sens à cette époque-là. Hein. Le pays vient d'être ébranlé par un désastre, Dien Bien Phu. Les regards des Français se portent pas forcément vers les laboratoires et vers les universités à cette époque, ils se portent vers Genève, hein, où se négocient les accords qui doivent mettre un terme à cette terrible guerre d'Indochine qui pèse lourdement en France et qui pèse aussi très lourdement sur l'économie du pays. Hein. Je veux dire, à cette époque-là, la France entretenait un contingent de 150 000 hommes à 12 000 km de la métropole, c'est quand même pas rien. Hein. Et les regards des Français se portent aussi de plus en plus vers l'Afrique du Nord, la Tunisie tout d'abord, et puis l'Algérie qui s'enflamme également. Hein. Rien d'étonnant en fait à cette époque que dans le fait que le président du Conseil, Mendès France, cumulait également le portefeuille de ministre des Affaires étrangères, parce que c'était là, à ce moment-là, comme à beaucoup d'autres périodes d'ailleurs, mais en tout cas à ce moment-là c'était assez lourd, que se trouvaient les dossiers les plus brûlants. Alors la science, me direz-vous, dans tout cela, Pierre Mendès France l'aurait-il séduite en période électorale pour mieux l'abandonner ensuite, une fois arrivé aux responsabilités, hein. Après tout, ça ne serait pas la première fois ni la dernière que cela se serait produit dans l'histoire de notre pays. Hein. Eh bien non, il tient ses promesses en établissant sur le modèle du Front populaire auprès du ministre de l'Éducation nationale un secrétariat d'État à la recherche scientifique et au progrès technique. Hein. On est toujours dans son esprit, dans ces deux conceptions, qu'il confie à Henri Longchambon, homme du Front populaire, précisément, et autour de lui vont graviter une vieille garde et puis une jeune garde. Alors, la vieille garde a des personnages emblématiques, je vais n'en citer qu'un, Henri Laugier, lui encore, hein, premier directeur du CNRS au moment de la déclaration de la guerre, et qui vient d'atteindre l'apogée de sa carrière comme premier secrétaire général adjoint des Nations Unies, hein, c'est donc un homme qui a du poids à l'époque. Et puis du côté de la jeune garde, il y a par exemple un mathématicien éminent qui va beaucoup faire parler de lui à cette époque, qui va continuer à faire beaucoup parler de lui par la suite, tout juste élu au Collège de France, André Lichnerowitz, qui a émerveillé Mendès France par la clarté de ses vues et aussi par son opposition à toutes les lourdeurs qui semblent peser sur le système d'enseignement supérieur et de recherche en France à cette époque-là déjà. Alors, quelles sont les réalisations de ces hommes qui commencent à œuvrer durant l'été 54 autour de Mendès France ? Un conseil supérieur de la recherche scientifique et technique, toujours, hein, scientifique et technique, est mis en place dès la rentrée de septembre 54. Il est chargé de faire des propositions pour tout ce qui concerne la recherche au secrétaire d'État et à son chef de gouvernement, donc hein, à Mendès, à Longchambon et à Mendès, ensuite Mendès France, de voir si ces mesures sont applicables et comment elles doivent être ensuite mises en œuvre. Seulement, hormis la discussion d'un budget volontariste pour l'année suivante, ces réalisations ont tout juste le temps d'être ébauchées pour une raison toute simple. Le gouvernement de Mendès France chute le 5 février 1955, 7 mois seulement après sa désignation. Alors, me direz-vous, comment se fait-il que Pierre Mendès France ait à ce point marqué la politique de la recherche scientifique en France, puisqu'à l'évidence, il n'a pas eu le temps de faire grand-chose dans ce domaine pendant sa présidence du Conseil des ministres? Eh bien, la raison est toute simple, les réalisations ne verront le jour qu'après son départ. Car c'est uniquement à partir de février 55, lorsqu'il n'est plus au pouvoir, qu'il est redevenu député de l'Eure quand même, mais qu'il n'occupe plus les fonctions qu'il occupait précédemment, qu'il parvient à faire bouger les lignes dans ce domaine. Alors je relève au passage, hein, il y a peut-être des admirateurs de la 4e République qui se sont glissés dans la salle. Après tout, c'était une soirée ouverte à tous, donc ils ont tout à fait le droit d'être là. Je relève donc que c'est quand même pas très bon signe. C'est quand même pas très très bon signe pour un régime politique quand même de pouvoir mettre en œuvre les grandes recommandations que l'on a faites au moment où l'on quitte le pouvoir, un pouvoir qui vivait d'ailleurs déjà ces dernières années. Voilà pour la neutralité en effet. Celui qui redevient donc député de l'Eure, on en est historien, on n'en est pas moins homme, hein. Celui qui redevient donc député de l'Eure s'intéresse de près à la mise en place d'un grand colloque national consacré à la recherche scientifique, placé sous le patronage des cahiers de la République, dont Mendès France préside le comité directeur, et appuyé sur un comité pour l'expansion de la recherche scientifique, composé à la fois de parlementaires et de scientifiques que Mendès France préside également. Alors pour tous les détails de l'organisation de ce colloque, qui se tient dans la ville de Caen, ça aurait été bien que ça soit à Poitiers, on aurait pu faire un lien plus évident, mais malheureusement, ils ont choisi la ville de Caen, dont l'université venait d'être reconstruite à neuf, après avoir beaucoup évidemment souffert pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, au début de mois de novembre 1956, dans la ville de Caen, je vous encourage à consulter un ouvrage assez exceptionnel, publié récemment par l'un des acteurs capitaux de cette page de l'histoire de la recherche en France. Il s'agit du livre que Jean-Louis Crémieux-Briac a fait paraître chez Armand Collin et qui s'intitule « La politique scientifique de Mendès France, une ambition républicaine ». Alors, Caen, en 1956, compte en effet parmi les grandes pages de l'histoire de la recherche au XXe siècle. C'est un grand rendez-vous, d'assises, des assises de la recherche, comme celle que le Front populaire a organisée dès 1938, peu avant sa chute, et ou celles qui se tiendront au début des années 80 sous François Mitterrand, qui demeure un peu les assises de 81 à 82, c'est un peu le modèle du genre, souvent imité, pas toujours égalé, on pourra dire, devant alors les universitaires, les chercheurs, mais aussi les hommes politiques, il y a des administrateurs, il y a des industriels, il y a des syndicalistes qui se sont réunis à Caen. Pierre Mendès France fait un discours inaugural très fort, très engagé, le 1er novembre 1956. Je vais en citer le début, là aussi. « Voici 21 ans que nous n'avons pas recueilli un prix Nobel scientifique. » Ça, il n'en démord pas, c'est le prix Nobel que l'on... C'est un critère, en effet, c'est un critère d'ailleurs qu'on met en avant constamment, donc il n'y a pas de raison que lui ne le fasse pas aussi. De partout s'élèvent des cris d'alarme. La recherche fondamentale, source première de toute invention, s'étiole, se réduit de jour en jour. Et il semble en effet que les progrès décisifs accomplis depuis la guerre en physique nucléaire, en physiologie et en génétique l'aient été en dehors de nous. La langue française a cessé d'être la première langue des savants. Bon, ça, il a un petit peu un temps de retard, ça faisait quelques années déjà que c'était le cas, mais bon. Notre contribution aux grandes revues scientifiques mondiales, qui pourraient mesurer l'abondance, sinon la qualité de notre apport au fonds commun des découvertes, reste dérisoire. Alors, les 3 jours de réflexion et de débat intense qui se déroulent à Caen, sous la présidence de Mendès France, débouchent sur un véritable manifeste, composé d'un préambule solennel qui en appelle à tous les Français et d'un certain nombre de propositions de réformes concrètes qui passeront à la postérité sous le nom des 12 points du colloque de Caen. Une nécessité y est tout d'abord évoquée, celle de l'impulsion de l'État. Pas de dirigisme, mais l'impulsion de l'État qui se traduirait par la mise en place d'une autorité politique chargée exclusivement de la recherche et de son orientation et de son financement, devant soutenir devant le Parlement un plan décennal d'expansion avec 3 objectifs, doubler le nombre d'étudiants dans les secteurs scientifiques et techniques, quadrupler les promotions d'ingénieurs et décupler le personnel de la recherche et de l'enseignement scientifique. Les autres propositions que formule Pierre Mendès France à ce moment-là, sous le couvert du colloque, mais on sent bien que l'impulsion vient de lui, tout aussi ambitieuses, elles traduisent également les idées, ses idées. Extension de l'enseignement scientifique au niveau secondaire et technique, décloisonnement de l'enseignement supérieur avec renforcement des liens entre les facultés et les grandes écoles, la grande question qui se pose tout au long de l'histoire de la recherche en France, hein, depuis la fin du XVIIIe siècle, construction d'établissements de recherche et d'enseignement scientifique, réforme profonde de l'administration de l'éducation nationale, une autre grande question qui se pose là, avec l'octroi d'une plus large autonomie aux universités, hein, l'autonomie des universités, déjà à cette époque-là, ça aussi, ça fait partie des sujets qui tournent. C'est pas la même autonomie, je suis d'accord. Hein. J'ai ouvert une brèche, vous glissez tout de suite dedans. À cela s'ajoute la demande d'un meilleur statut pour les personnels du CNRS. Alors là, c'est très regrettable quand on lit les conclusions du colloque de Caen de 56, c'est que le CNRS, à la fois a brillé par son absence, il s'est très peu investi dans cette réflexion qui a eu lieu à Caen en 56, et en même temps, quand il s'est enfin fait représenter, il a demandé qu'une chose, une chose assez corporative finalement, c'est un statut pour ces personnels. Mais aussi la volonté de revaloriser les carrières de la recherche fondamentale et de l'enseignement supérieur, donc hein, toujours proposition de Mendès France, le soutien de l'État à la recherche appliquée, la réforme des études médicales, dont vous avez en effet parlé, hein, l'expansion de la recherche agronomique, etc., etc. Mais les circonstances, une fois encore, pèsent sur l'application de ce formidable programme ébauché à Caen en 1956. Alors qu'il œuvrait à la préparation du colloque, Pierre Mendès France s'est peu à peu éloigné de René Bière. Bière, qui était à cette époque-là ministre de l'Éducation nationale, et du nouveau chef de gouvernement, qui était Guy Mollet. Pas au sujet des questions de recherche sur lesquelles il pouvait trouver un terrain d'entente, mais au sujet de l'Algérie, tout simplement. Car Mendès France avait le sentiment, et d'ailleurs la suite de l'histoire lui a donné complètement raison, que la politique défendue par Mollet allait quand même vers le mur dans ce domaine-là. Alors au final, ces questions scientifiques, qui apparaissent quand même souvent à l'époque comme une variable d'ajustement, hein, en tout cas comme des sujets situés à la marge de ce que l'on considère alors comme les grandes préoccupations prioritaires, et notamment le délitement de notre empire colonial, hein, ces questions finissent par être toujours sacrifiées sur l'autel de nécessités que l'on estime alors tout simplement plus impérieuses, à tort ou à raison. Hein, mais c'est vrai qu'il y avait quand même urgence dans l'empire. Alors ces recommandations sorties de Caen, Mendès France les portera à plusieurs reprises devant l'Assemblée nationale, où il ne rencontrera pas le succès, devant l'opinion, en multipliant les interventions, en renouvelant ses appels lors d'un deuxième colloque national qui se tiendra cette fois-ci à Grenoble, hein, autour de la science et relations entre science et industrie, sans trop de succès non plus. Il y a un petit côté Cassandre, en fait. On a l'impression, dans les démarches qu'il entreprend à cette époque, un Cassandre... on peut dire encore plus malheureuse que celle de l'Antiquité, de la mythologie, tout simplement parce que Mendès France non seulement constate avec désespoir que ses amis politiques ne l'entendent pas ou ne le suivent pas sur ces questions de recherche scientifique, mais aussi constate quelques années plus tard que ce sont ses opposants qui vont reprendre à leur compte et appliquer avec succès les recommandations qui ressortent de Caen et des années de réflexion qui ont préparé le colloque ou qui l'ont prolongé. Alors dès la fin de l'année 58, j'en arrive à une autre page de l'histoire de France, le nouveau, dont je suis obligé de parler, Michel, je suis désolé, c'est dans la continuité. Dès la fin de l'année 58, le nouveau pouvoir gaullien, auquel Mendès France s'oppose fermement, viscéralement, met en œuvre, tambour battant, tout le canevas qui avait été patiemment constitué tout au long des années 50 par le député de l'heure et autour de lui par tous les scientifiques qu'il avait réussi à mobiliser. Alors, Mendès France avait défendu la nécessité d'une autorité supérieure pour la recherche scientifique. En 1959, se met en place la délégation générale à la recherche scientifique et technique, hein, la DGRST, certains d'entre vous s'en souviendront peut-être, qui animera pendant une vingtaine d'années la politique scientifique française. Il avait milité pour des échanges plus réguliers entre le politique et le scientifique, constatant l'insuccès du Conseil supérieur qu'il avait mis en place en 1954. Dès 1959, un comité consultatif de la recherche est instauré, composé d'une douzaine de savants, on les appelle très vite les douze sages, qui ont un accès direct au nouveau chef de l'État, au général de Gaulle, hein, qu'il rencontre deux fois par an pour lui rendre compte des résultats et lui faire part des besoins. Et justement, pour la question des besoins, il avait surtout recommandé, Pierre Mendès-France, une hausse considérable des moyens. On ne décuple pas le personnel des établissements scientifiques sans injecter un peu d'argent. Elle est, dès 1959, colossale, cette hausse, hein, et surtout pérenne, puisqu'elle ne faiblit pas jusqu'au départ du général de Gaulle. Hein. Pendant 10 ans, la recherche est très, très bien financée. Alors, pour vous faire une idée, j'aime bien toujours citer cet exemple concret, puisque vous avez beaucoup parlé aussi de l'histoire du CNRS. C'est le budget du CNRS qui a doublé en 2 ans, entre 1959 et 1961. Hein, ça, c'est du jamais vu dans l'histoire de l'établissement. En 2 ans, doublement du budget. J'aime bien aussi citer cette anecdote découverte dans les archives du conseil d'administration du CNRS, où j'ai trouvé la remarque d'un administrateur en 1959, après l'annonce du budget octroyé à l'établissement par le nouveau pouvoir gaullien pour l'année suivante. Hein, il dit « Mais qu'allons-nous faire de tout cet argent ?» Je vous mets au défi de retrouver, quel que soit l'établissement scientifique, quelle que soit l'université, quelles que soient les archives que vous allez consulter, une même remarque, et quelle que soit l'époque aussi, à n'importe quelle autre période. Mais je m'empresse aussi de préciser tout de suite que les chercheurs ont, comme d'habitude, ça, il faut faire toujours pleinement confiance à leur esprit d'initiative, très vite trouver quoi faire de cet argent, et ils ont très vite réussi à le dépenser en totalité. Je ne suis pas là, hélas, vous l'avez compris, pour vous parler de la recherche scientifique sous l'ère gaullienne. Hein. Cela nous emmènerait de toute manière jusqu'à demain matin. Et c'est donc avec Mendès-France que je finirai cette présentation. Jean-Louis Crémieux-Briac cite cette réponse que Mendès lui a faite lorsqu'il s'était montré désolé de voir que le programme en faveur de la recherche scientifique qu'il avait contribué très largement à bâtir avait été mis en œuvre par les gaullistes, en fait, tout simplement. Des gaullistes qui, soit dit en passant, n'avaient pas une idée précise en arrivant, voire même, je pense, pas d'idée du tout en arrivant en responsabilité de ce qu'il convenait de faire dans ce domaine, mais qui se doutaient quand même, qui avaient cette intuition forte que la recherche scientifique avait quelque chose à faire avec la grandeur de la France, hein, notion ô combien importante pour eux, évidemment, mais qui, du coup, ont appliqué à la lettre les recommandations qui avaient été formulées dans le sillage de Mendès-France, alors que lui-même n'avait jamais trouvé les moyens de les appliquer, ni n'a eu le temps, tout simplement, de le faire auparavant. Alors, ça doit quand même être très agaçant, hein, de se faire piquer des idées et puis de voir qu'au final, quand c'est un autre qui les applique, bah, qu'elles étaient bonnes, puisque ça fonctionne très bien. Réponse de Mendès-France à Crémieux-Briac, nous menons tous en commun une grande entreprise que nous ne devons jamais oublier. Le travail que nous faisons est destiné à servir une cause, celle du pays, celle de la France dans son ensemble. Alors, peu importe, en somme, aux yeux de Mendès-France, que le bon remède soit administré par le mauvais médecin, hein, puisque tant qu'il l'est, ce remède, tant qu'il est administré et au plus grand bénéfice du patient, c'est-à-dire de la France, tant mieux. Et c'est à ça aussi, c'est peut-être même à ça surtout, que l'on reconnaît le grand homme d'État, beaucoup plus que le grand homme politique. Voilà, merci beaucoup.
Bonsoir. Avec Hubert Curien, on change d'époque, on change d'horizon, puisqu'il va être question un peu de l'Europe aussi, et on change aussi de style de l'homme. Une remarque, une précision pour commencer. C'est exact que nous sommes connus, Didier et moi, dans le contexte des affaires européennes, à l'époque où j'étais à la Commission, mais c'est bien à l'époque où j'étais à la Commission, que j'ai quitté depuis plusieurs années. Donc c'est à ce titre strictement personnel que je m'exprime ici. Et il se trouve que ce travail que j'ai effectué pendant des années m'a permis d'abord, ce qui est une chance pour un fonctionnaire, d'apporter tous mes intérêts intellectuels dans l'exercice de mon activité professionnelle. Ce n'est pas nécessairement toujours le cas. Et puis aussi de croiser la route de tas de gens aux personnalités très riches et très intéressantes. Et une d'entre elles, je dois dire, qui se détache très nettement, c'est Hubert Curien, que j'ai croisé suffisamment, avec qui nous étions en interaction. Alors... En quelques mots, je sais qu'on est déjà en plan glissant, mais bon, Didier, tu m'arrêtes quand tu considères que j'abuse. Il y a quelques temps de ça, quelques années déjà, j'ai été invité par celui qui était à l'époque le conseiller scientifique de l'ambassade de France en Belgique, auprès du gouvernement belge, à faire ce que je fais ce soir, c'est-à-dire raconter un peu qui était Hubert Curien. Alors, je me suis trouvé en face de deux classes de terminale. Il y avait en tout, je pense, quatre classes de terminale. Il y avait 250 élèves, quelque chose comme ça. Très heureux, je dois dire, de faire autre chose que d'assister à des cours et qui ont écouté assez attentivement tout ce que je racontais. Puis, à la fin de l'intervention, pour un peu lancer le débat, parce que c'est déjà toujours difficile de lancer un débat, mais les jeunes, en général, hésitent à se lancer, j'ai simplement posé la question, est-ce que ceux d'entre vous qui ont déjà entendu parler d'Hubert Curien et savent de qui il s'agit, pourraient lever le bras? Et j'ai vu un bras se lever à moitié, c'était assez ambigu, c'était même pas sûr. Et j'ai eu quand même un petit pincement de cœur pour Hubert Curien. Le nom d'Hubert Curien dans les milieux que je fréquentais était toujours prononcé avec beaucoup d'affection et énormément de respect. Et visiblement, c'est quelqu'un qui n'était pas dans l'univers mental de ces gens qui représentaient quand même les enfants de la bourgeoisie intellectuelle française. C'était le lycée français à Bruxelles, la future élite dirigeante du pays. Et j'ai trouvé ça un peu préoccupant. Et pour ajouter l'injure à l'insulte, comme disent les anglo-saxons, le premier intervenant du débat, parce qu'il y en a eu un, c'était le provocateur de service, le contradicteur de service, a posé une question qui, comme d'habitude, dans ce cas-là, n'était pas une question, mais une intervention, une prise de position. Et en substance, c'était « Mais écoutez, vous êtes bien gentils, mais vous nous ennuyez considérablement avec toutes ces histoires. Qui sont ces gens? On ne les connaît pas. Et puis, M. Curien, d'abord, il est mort. » Bon, je dois dire que devant cette manifestation de ce qu'on appelle d'un vilain mot le présentisme exacerbé, je me suis quand même posé des questions et sur les rapports de cette génération avec son passé, avec le passé, avec l'histoire en général. Qu'est-ce que l'on peut faire pour sortir des limbes de l'oubli des personnalités comme ça? Bon, dans le cas de Mendès France, bon, il y a l'espace Mendès France, encore que je ne suis pas sûr que tous ceux qui fréquentent l'espace Mendès France ont une idée très claire de qui était M. Mendès France. Le doute est permis, mais bon, il est quand même entré dans l'histoire, grande histoire politique française. Dans le cas d'Hubert Curien, bon, il y a les procédés classiques. En 1994, quand Hubert Curien a pris sa retraite, enfin retraite entre guillemets, parce que des hommes pareils ne prennent jamais leur retraite, quelques années ou un an auparavant, il nous avait montré fièrement le carnet, l'agenda d'un homme retraité. Et je vous assure qu'il avait une écriture minuscule, mais on ne pouvait pas retrouver un emplacement pour placer un seul mot. Et en tout cas, à ce moment-là, à l'initiative d'Étienne Guyon, qui était directeur de l'École normale supérieure, on a édité un gros livre avec des contributions. C'est le genre de l'hommage académique avec tout ce que ça peut avoir d'intéressant, parce que c'est riche et puis parfois un peu pénible. Je l'ai vu, il m'a dit, on était d'accord pour considérer que, bon, c'est très intéressant, mais il y a peut-être davantage à dire. Et puis malgré tout, comme on disait en histoire de la littérature, ces bouquins ont toujours un parfum de tombeau. On a l'impression que c'est un enterrement avant la lettre. Alors je pense que ce qu'il y a de plus intéressant à faire pour faire vivre la mémoire de quelqu'un comme ça, c'est d'essayer de mettre ses pas dans les siens et de réfléchir à partir des problèmes qui l'ont occupé, de réfléchir sur ce qu'a été sa vie et de ce qu'il a fait. Donc finalement, je vais essayer, ça a déjà été commencé ici, de problématiser, comme disent les professeurs d'histoire à leurs étudiants, problématiser la vie d'Hubert Curien. Je le ferai à deux niveaux. Bon, en physique, on distingue les symétries globales et les symétries locales. Au niveau local, à chaque fois que j'évoquerai un élément, j'essaierai peut-être de le mettre en perspective, voir quelles questions ça pose du point de vue de la politique de recherche. Et puis au point de vue global, d'un point de vue à ce moment-là plutôt l'historien, qui est la fameuse question contrefactuelle, qui est qu'est-ce qui se serait passé si, si M. Curien n'avait pas été là, si malheureusement il était tombé sous les balles allemandes quand il était résistant, ou s'il avait accepté une proposition d'aller enseigner aux États-Unis comme des tas d'universitaires français l'ont fait, est-ce que la politique de recherche française aurait été très différente? Est-ce que la politique européenne de recherche, surtout, aurait été très différente? Bon, vous pouvez peut-être deviner un peu quelle est ma réponse, mais vous verrez bien à la fin de l'exposé. Alors, je le ferai de trois points de vue, si on peut dire trois aspects. Le premier sera ce que j'appelle la vision de la politique de recherche d'Hubert Curien. Le second, un certain nombre d'éléments, de points qui concentraient son attention, sur lesquels il s'est particulièrement préoccupé. Et puis le troisième, et ce n'est certainement pas le moins important, j'attache beaucoup d'importance à cela, en histoire et en politique, c'est un facteur qu'on sous-estime, le style. Le style, c'est-à-dire l'homme, la personnalité. Alors, la vision de la politique de recherche d'Hubert Curien. Bon, je n'aime pas trop le mot vision. Un sociologue britannique d'origine hongroise que j'aime beaucoup, qui s'appelle Frank Furedi, a un jour commencé un article en disant « Vision is a little like sex. The less you have it, the most you talk about. La vision, c'est un peu comme le sexe, de moins vous en avez, de plus vous en parlez. Alors, les hommes politiques qui parlent de vision, c'est un peu comme la stratégie, en général, c'est qu'ils n'en ont pas. Donc, M. Berkuyen ne parlait pas de vision, mais il se trouve qu'il en avait une. Alors, quelle était la vision de la politique de recherche de Berkuyen? Eh bien, c'était une vision de chercheur. Quand on dit ça comme ça, ça a l'air trivial. Mais si vous avez bien écouté Michel Blais tout à l'heure, ce n'est pas si trivial que ça d'avoir une vision de la politique de recherche qui est une vision de chercheur. Il y en a d'autres et pour l'instant, ce n'est peut-être pas celle qui s'impose. On peut avoir une vision qui est commandée par des intérêts économiques, de caractère plus utilitariste, etc. Et ce n'était pas du tout le cas de Berkuyen. Sa vision était très traditionnelle au sens qu'évoque Michel Blais, c'est-à-dire il pensait que la recherche est là pour faire progresser les connaissances et que le progrès des connaissances a en soi une valeur. Ce qui est la raison pour laquelle on doit le soutenir. Au fond, c'est la conséquence immédiate de cette vision, c'est de considérer que le rapport des pouvoirs publics, par exemple, aux chercheurs, à la communauté de la recherche, n'est pas si éloigné du rapport d'un mécène à l'artiste. Il finance quelque chose qui a de la valeur. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Les relations entre pouvoirs publics et chercheurs tendent à se rapprocher de la relation client-fournisseur, par exemple. Ou alors, c'est encore plus compliqué que ça, parce qu'on ne sait pas très bien qui fait qui. Il y a des partenariats, on ne sait pas qui profite, qui donne, qui reçoit, qui décide. C'est un peu cette nuit grise où toutes les vaches sont grises, on disait Hegel, et je ne suis pas sûr que ça facilite les choses. La vision du Berkuyen était beaucoup plus simple et beaucoup plus traditionnelle. C'était aussi une vision de sa discipline. Berkuyen était cristallographe. Qu'il soit cristallographe, ça a fait qu'au moins il a gagné un petit titre à rester dans la mémoire parce que son nom a été donné à un minerai, la curienite, qui est un oxyde de plomb trouvé en Afrique. Les savants passent dans l'histoire parce qu'ils donnent leur nom à une constante, la constante de Planck, la loi de Newton, le nombre d'Avogadro. Les cristallographes, c'est un peu comme les minéralogistes, c'est un peu comme les botanistes ou les zoologues, ils donnent leur nom à des choses concrètes. Et là, en l'occurrence, c'était un minerai. Et l'anecdote veut que pendant les événements de mai 68, quand il y avait tout le tohu-bohu que l'on sait dans les rues du quartier latin, Hubert Curien se préoccupait beaucoup, il grimpait sur le toit de la Sorbonne pour veiller à ses échantillons parce qu'il avait peur qu'on les détruise. Donc c'est important parce que, comme je le dirais tout à l'heure, l'esprit d'Hubert Curien est un esprit concret. Les cristallographes sont des gens, c'est un peu comme les médecins ou les biologistes ou en général les chimistes. Ce sont des gens qui ont affaire à la matière et ils sont moins tentés par l'abstraction. On sait qu'en sociologie ou en psychologie de la science, ceux qui tombent le plus facilement dans une espèce de mysticisme, ce sont plutôt les mathématiciens et les physiciens parce que la matière n'est pas là pour les rappeler. Donc à quoi cela se voit et comment ça se traduit? Deux éléments pour montrer de quoi il s'agit. Premièrement, le fait qu'il ait une vision de politique de recherche de chercheur l'a rendu très sensible à un projet européen qui était le projet d'espace européen de la recherche. Alors, ce projet a vu le jour après qu'il ait quitté ses fonctions, mais comme je vais le dire, il a joué un rôle important dans sa mise en œuvre. Ce projet, l'espace européen de la recherche, est un concept, un peu un concept régulateur à la Kant, si vous voulez. Ce n'était pas destiné à devenir un objectif très, très précis. Et c'est l'idée simplement que l'Europe peut être un espace, donc un espace de circulation. C'est l'époque où on parlait beaucoup de grands espaces européens, d'espaces économiques, circulation de personnes, circulation des idées, circulation des connaissances, etc. En même temps que de coordination des politiques nationales. C'est une histoire, c'est une idée qui a une longue histoire que j'ai retracée moi-même. Elle est apparue dans les années 70, à la fin des années 70, proposée par Ralph Dahrendorf, qui était à ce moment-là commissaire allemand. C'est un sociologue. Il est parfois, par après, devenu britannique et un peu eurosceptique, mais enfin, c'est autre chose. Et puis, elle a été enterrée parce que ça n'intéressait pas du tout les gens. Elle est réapparue, je vais y revenir, dans des textes du Conseil de l'Europe, une autre institution, puis de nouveau été oublié. Le commissaire italien Ruberti l'a ressuscité. Et puis, là, on peut suivre son trajet beaucoup plus facilement. Elle a cheminé un peu souterrainement dans les, dans les couloirs de la commission, j'ose dire, comme un feu qui chemine sous les aiguilles de pin d'une sapinière, puis qui éclate. Et puis Busquin s'en est emparé et l'a transformé en un projet politique. Finalement, ça prouve qu'il avait du bon sens et du sens politique. Les hommes politiques n'ont pas d'idées. Ou plus exactement, ils ont des idées politiques. Et une idée politique, c'est transformer une des idées qu'on vous soumet en un projet qui soit politiquement réalisable. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, on peut faire deux remarques à ce propos. La première, c'est que, quand j'ai découvert ça, les gens étaient un peu étonnés, mais en fait, personne n'a jamais réussi à m'objecter sur ce point. Les trois personnes qui ont été impliquées dans cette affaire directement, donc Dahrendorf, Ruberti et Busquin, et plusieurs autres, dont Hubert Curien, étaient comme par hasard tous proches de l'université ou des chercheurs fondamentalistes. Je crois que ce n'est pas par hasard. Je pense qu'il y a quand même dans la recherche une dimension naturelle de coopération, d'échange. C'est quelque chose qui est dans le prolongement, je dirais, du comportement normal des chercheurs. Et si on veut démontrer la véracité de cette idée, on peut constater, sortir un contre-exemple. Et le contre-exemple, c'est une dynastie d'autres commissaires, comme Davignon, comme Élie de Cresson, comme commissaire Nariès ou Bandolfi, qui étaient, eux, beaucoup plus proches de l'industrie. Et typiquement, ils se sont concentrés sur, de façon très pragmatique, sur les instruments propres de l'Union, sur les financements propres de l'Union. Donc, je crois que ce n'était pas par hasard et que Hubert Curien faisait partie de cette famille d'esprits pour qui l'idée d'un espace de circulation des connaissances et des personnes faisait du sens. Du point de vue opératoire, il a joué un rôle quand même important. Il est un de ceux qui ont contribué à faire passer l'idée de Ruberti à Busquin. Bon, il se trouve que c'était Busquin l'a rencontré. Hubert Curien avait eu la gentillesse de faire un article critique dans Physic World du livre que j'avais, Ruberti et moi avions écrit ensemble, qui s'appelait « Un espace européen de la science ». Et il était un de ceux que Philippe Busquin, évidemment, qui avait beaucoup d'admiration au départ pour lui, écoutait, et ça l'a aidé à se convaincre que c'était exactement ça qu'il fallait faire. Une autre illustration de cette vision de la politique de recherche de chercheurs, eh bien, c'est ce que Hubert Curien n'a pas fait. Et qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Quand on regarde un peu l'ensemble de son activité, il y a un domaine dont il a délibérément choisi de ne pas s'occuper. Et c'était la recherche industrielle. Je sais que parfois on dit le contraire, mais en réalité, si vous interrogez les gens qui l'ont connu, il considérait que ce n'était pas son affaire. Il considérait que lui devait s'occuper du progrès des connaissances et que les aspects de politique industrielle, il y avait d'autres membres du gouvernement qui devaient s'en charger. Et c'est vrai que son nom est souvent associé à l'initiative Eureka. Mais il y a beaucoup de légendes et de brumes et de brouillards et de contre-vérités au sujet de cette initiative Eureka qui existe toujours parce qu'une initiative politique parfois est très difficile à éliminer. Il y a les administrations qui se créent, les services, ça devient, on ne s'en débarrasse pas comme ça. Et l'idée de Eureka, que les Français présentent comme un projet français, les Allemands comme un projet franco-allemand, bon, on sait que c'est François Mitterrand qui l'a poussé, et on sait que c'est Jacques Attali qui lui a soufflé dans le tuyau de l'oreille. On dit aussi que Mitterrand, la preuve qu'il était un grand politique, c'est qu'entre les 1000 idées que Jacques Attali lui proposait par jour, il était capable de choisir celle qui était bonne et qui allait marcher. Donc, ce qu'on ne sait pas, ou ce qu'on sait moins, ou ce que savent seulement certaines personnes dans les milieux, c'est que cette idée, Attali, qui est un grand producteur d'idées, mais aussi un grand prédateur d'idées, avait été la prendre chez un homme dont tout le monde a oublié le nom, qui s'appelait Yves Tourzé, et qui était le directeur du CESTA à l'époque, et c'est lui qui avait conçu ce projet. Et alors ce projet a évidemment été mis en œuvre à l'initiative de Jacques Attali et de Mitterrand, et Hubert Curien en a hérité. Et comme il était un ministre loyal et dévoué, il a fait de son mieux, mais c'est vrai qu'il disait « nous avons essayé », et qu'il en parlait avec toute la conviction qu'il pouvait y mettre, mais on sent très bien que ce n'est pas le genre d'idée qu'il aurait eu spontanément. Parce que ce n'est pas qu'il considérait que la recherche industrielle n'avait pas d'intérêt, c'est que ça ne faisait pas partie de son champ d'intérêt à lui et de ses priorités. Alors, quand on voit exactement ce qu'il a fait, quels étaient ses centres d'intérêt? En fait, il s'est concentré sur tous les aspects clés du fonctionnement de la recherche. Les hommes, les machines, les idées, et puis deux aspects un peu d'un ordre différent sur lequel je reviendrai par après. Les hommes, bon, c'est clair, quand il était, bon, un peu la carrière de Hubert Curien, il était un grand administrateur au niveau européen, national et au niveau européen. Et il a fait à peu près la même chose, et ce qu'il y a de singulier, parce que c'est pas extraordinaire de voir des chercheurs devenir des administrateurs de la science ou des responsables politiques de la science, c'est qu'il l'a fait à la fois au niveau européen et au niveau national avec le même intérêt. La politique européenne était au centre de sa politique nationale, il y songeait beaucoup, et réciproquement, il n'y a pas une seule initiative de coopération européennes au plan scientifique, il y en a eu beaucoup pendant ces années-là, auxquelles il ne soit à un titre ou à un autre associé. Je pense qu'il est à peu près la seule personne dans le cas. Il y en a pas, je n'en connais pas d'autres qui soient partie prenante à tous les projets européens de ces années-là. Alors, il a été directeur général de la recherche scientifique en France, et c'est là qu'il a lancé ce programme d'allocation de bourses pour les jeunes chercheurs. À l'époque, c'était quand même une espèce de nouveauté, ça n'existait pas. Il a fait la même chose au niveau européen dans trois contextes différents. Le premier contexte, c'est celui de la Fondation européenne de la science. La Fondation européenne de la science, que vous connaissez, c'est une association d'organisation nationale qui a été créée dans les années 70, 74, si je me souviens bien, par un petit groupe dont il faisait partie, et il était un de ceux qui ont porté la Fondation européenne de la science à la réalité. Et c'est évident qu'il a profité de cet instrument pour mettre en place un certain nombre de réseaux. Il l'a fait aussi dans le cadre du Conseil de l'Europe, qui est une autre institution qui n'a rien à voir avec les communautés européennes de l'époque, avec l'Union européenne aujourd'hui, qui ont mis aussi en place un certain nombre de réseaux. Et beaucoup de coopérations qui sont maintenant financées par l'Union européenne ont démarré dans le cadre du Conseil de l'Europe. Je faisais référence tout à l'heure à l'espace européen de la recherche. Deux textes du Conseil de l'Europe, des résolutions du Conseil ministériel du Conseil de l'Europe ont été adoptées à ce moment-là, qui font référence à la mobilité des chercheurs et à l'institution de réseau. Quand j'ai découvert ça, je me suis posé une question. Je me suis dit, c'est quand même bizarre, dans ce contexte-là, comment est-ce apparu ? Mais ce n'était pas du tout fortuit. J'ai compris ce qui s'était passé, parce que je m'intéressais un peu à l'histoire de toutes ces idées. Au moment où j'ai découvert que la réunion du Conseil des ministres en question, où ces résolutions ont été adoptées, se tenait à Paris à l'invitation de Hubert Curien, comme par hasard. Et le troisième contexte, c'est celui des affaires européennes. Il faisait partie d'un petit groupe qui s'appelle le CODEST, qui a mis en place les premiers programmes de mobilité, ce qu'on appelle aujourd'hui, pour ceux qui savent de quoi il s'agit, les actions Marie Curie. Puis, il s'est intéressé aux machines, aux grandes institutions, les infrastructures. On peut en identifier deux. Il y a d'abord le SRF, l'installation de radiation au synchrotron de Grenoble. Là, je pense que pratiquement à tous les stades de développement de ce projet, il était présent. Il était présent à la conception, il était présent à la gestation, il était présent à l'accouchement. Il était présent à la conception parce que c'est né dans le cadre d'un petit groupe de travail qui était justement un groupe de travail de la Fondation européenne de la science. La gestation, parce qu'ils ont mis en place un groupe d'experts dont il faisait partie, et puis l'accouchement, il était ministre, il dirigeait le conseil qui a adopté la décision qui mettait en place le rayonnement synchrotron. C'est Yves Farge a dit, je reviendrai en conclusion sur cette phrase, que si Hubert Curien n'avait pas été là, le RCRF n'existait pas. Oui, non, on verra. La seconde grande machine ou organisation, c'est évidemment le CERN. Il était président du CERN à une époque où tout était déjà en place, le LEP avait déjà été installé, etc. Je pense qu'il a pris ses fonctions très au sérieux et que c'est évident qu'il était déjà investi de tout le prestige à ce moment-là. Le CERN n'a fait que bénéficier de la présence d'un homme comme ça. Puis il y a les idées, c'est-à-dire les échanges d'idées. Il était président de l'Académie des sciences. Je ne pense pas que c'était le plus mauvais président de l'Académie des sciences. Il n'avait pas le goût de la bureaucratie, de la paperasse ou des comités, mais c'est un homme qui aimait les échanges et je reviendrai, qui aimait écouter. Donc, qui aimait les débats et les débats intellectuels, les débats scientifiques. Il était membre du CODES dont j'ai parlé, qui est une espèce de comité. Au sein du CODES, il siégeait à côté d'une personne que vous connaissez peut-être, qui est le prix Nobel belge d'origine russe, Ilya Prigogine, qui avait dans ses cartons et traînait partout une idée de, au fond, l'équivalent de la National Academy of Science aux États-Unis, une espèce d'assemblée de chercheurs au niveau européen. Qui n'a jamais vu le jour que bien plus tard, de nouveau c'est Ruberti qui était récupéré cette idée, Prigogine n'en a pas été le président bien qu'il aurait souhaité, c'est comme ça que ça se passe, et Curien faisait partie de ceux qui considéraient que c'était utile, qu'il était utile qu'il y ait une espèce d'assemblée européenne de science. Elle a vécu à l'époque de Ruberti pendant quelques années, puis le projet était abandonné parce que simplement c'était impossible à gérer. Je peux en parler en connaissance de cause, c'était un affrontement de 100 égaux en permanence, divisé en deux classes, 50 industriels contre 50 de recherche fondamentale, c'était un là constant, on a laissé tomber. Mais bon, l'idée reste valable. Ça pour les idées. Et puis à côté des hommes, des machines, des idées, il y a deux domaines d'intérêt particuliers là qui méritent un mot. Le premier, évidemment, c'est l'espace. L'espace qui est un secteur particulier. Pour beaucoup de gens, Curien, c'est le père de l'Europe spatiale. Bon, je crois que l'Europe spatiale a beaucoup de pères, mais un d'entre eux est certainement Hubert Curien. On peut se poser des questions au sujet de cet intérêt et de la nature de cet intérêt. Parce qu'il n'était pas seulement le père de l'aérospatiale, il était associé à la fois au satellite Spot, au lanceur Ariane, etc. Il était directeur général du président du CNES, pardon, puis directeur général de l'Agence spatiale européenne. Je pense que, d'une part, c'était pour lui assez rationnel. Il était très conscient de l'intérêt de ce qu'on appelle l'espace utile, c'est-à-dire les satellites de télécommunication, les satellites d'observation de la Terre, etc. Et puis, il y avait cette passion qu'il avait pour les vols habités, qui laissait perplexe un certain nombre de gens. Il n'y a pas simplement Claude Allègre qui considérait que les vols habités, c'est du gaspillage en grand. Je pense que c'était irrationnel. Quand on regarde un peu l'histoire des politiques spatiales dans le monde, au bout du compte, on s'aperçoit que les véritables motivations ont toujours été non pas utilitaires, mais dans le cas des Américains, par exemple, stratégiques et de prestige. L'installation scientifique la plus chère au monde à ce jour, le record n'est pas encore battu, même pas par le LHC, c'est la Station spatiale internationale qui a coûté plus de 120 milliards de dollars. 120 milliards de dollars. De la vie générale, ça ne sert à rien. Je veux dire, peut-être faire un peu d'observation, mais finalement, les opérations militaires, c'est mieux des satellites. Donc, c'est uniquement du prestige. C'était à la fin de la guerre froide, il fallait quand même un peu impressionner les soviétiques. Dans le cas du Mercurien, je ne dirais pas ça. Je ne trouvais pas, quand il s'exprimait au sujet de l'espace, ce discours de l'indépendance nationale ou de la grandeur, pour employer un mot que quelqu'un qui a bien cité tout à l'heure employé souvent. C'était pas ça. Je pense que c'était émotionnel. Je pense que c'était une admiration d'enfant. C'était, il aimait l'espace, il était attaché, ça le faisait rêver, tout simplement, comme ça fait rêver beaucoup de gens. Et c'est pour ça qu'il a toujours défendu, jusqu'y compris la navette Hermès, à une époque où des tas de gens doutaient que ce soit viable. Et puis, le dernier domaine, c'est la culture scientifique et technique, bien sûr. Tout le monde ici sait de quoi il s'agit. Il a été un des plus ardents promoteurs, exactement pour cette même raison. Il pensait que le progrès des connaissances avait de la valeur, que c'était mieux d'être instruit que d'être ignorant. Et il avait une vision, je dois dire, assez traditionnelle. Je ne pense pas qu'il aurait nécessairement apprécié les approches très ludiques. Bon, il était conscient qu'acquérir des connaissances en sciences, ça peut requérir un peu d'effort, que l'effort est payant et gratifiant, et qu'il fallait simplement, dans un esprit très démocratique et républicain, comme vous dites en France, mettre à la disposition de tous les moyens de faire cet effort. C'était exactement ce qu'il voulait faire. Pour l'anecdote, assez curieusement, alors que Ruberti mettait en place des activités de ce type au niveau européen, il ne s'est pas trouvé directement impliqué. Les véritables acteurs des premiers projets de développement de la culture scientifique au niveau européen, c'était Ruberti lui-même, qui déjà en Italie était acteur majeur. Il avait lancé une semaine nationale, etc. Et très intéressé à titre personnel par ces questions. La culture, c'est très proche du cœur des Italiens, comme vous le savez. Et José Mariano Gago, le ministre portugais de la Recherche d'alors, qui s'est toujours intéressé à ces questions. Curien était là, il observait, mais il n'a pas pris part, peut-être parce qu'à l'époque, il avait trop d'activité, puis parce qu'après tout, on ne peut pas tout faire. Personne ne peut tout faire. Dernier point est le style. Alors, le style. Le style de Curien était, comme on dit, inimitable, on dit de tout ce qu'on ne peut pas facilement imiter. Il y avait moyen de faire du Curien, mais seul lui parvenait avec cette manière. Quand vous lisez un peu les témoignages, par exemple dans ce bouquin, mais partout ailleurs, tout le monde souligne sa courtoisie, son amabilité, son humour. C'est un profil, mais vous ne pouvez pas imaginer plus opposé à celui des hommes politiques d'aujourd'hui. Un trait dont on le félicitait souvent. Et je pense que ce n'est pas seulement un trait qui rendait son commerce personnel agréable. C'est évidemment une personne qui était très agréable à fréquenter parce que vous aviez l'impression d'être écouté, etc. Je pense que du point de vue politique, c'était un instrument d'une formidable puissance. D'abord, je l'ai dit, c'est quelqu'un qui écoutait. Et il y a de multiples témoignages à ce propos pour la manière dont il opérait dans tous les contextes, que ce soit au niveau du CNRS, il a aussi été directeur général du CNRS après avoir été directeur de la physique, que ce soit au ministère français, que ce soit dans les conseils européens, etc. Quand je dis écouter, c'est écouter. C'est un peu à la manière dont un grand écouteur, entre guillemets, était Jacques Delors. Jacques Delors est un homme qui croyait à deux choses en politique, à la puissance des intermédiaires, des syndicats, des associations, etc., et à l'écoute. On dit aussi aujourd'hui qu'il faut écouter, mais le terme a changé de sens. Il n'y a pas seulement que les mots ne sont plus les mêmes. Les mots ne sont pas innocents, comme disait Michel Blais en substance. Il y a un texte célèbre de George Orwell qui s'appelle « Politics and the English Language », mais qui pourrait être appliqué à bien d'autres langues que l'anglais, particulièrement le français. Et qui consiste à dire, écoutez, c'est important la manière dont vous parlez et de parler bien, parce que quand vous parlez mal, vous pensez de travers, et quand vous pensez de travers, vous faites les choses d'une façon qu'il ne faut pas. Et je pense que le mot écoute maintenant a pris un autre sens. Quand un homme politique vous dit, je suis à l'écoute, ça veut dire, je veux faire plaisir à tout le monde, je veux faire plaisir à tous les groupes les groupements d'intérêt, etc. C'est pas écouter les points de vue de chacun, retenir ce qu'il y a d'intéressant et oublier ce qu'il y a de misérable, et faire une synthèse propre à votre corps défendant, c'est-à-dire en étant prêt à la défendre et payer pour ça, en étant prêt à déplaire, parce qu'on ne fait pas la politique en faisant plaisir à tout le monde. Et c'est une chose dont Curien était parfaitement conscient. Mais ça ne se voyait pas parce qu'il était d'une accablante gentillesse. C'est quelqu'un qui vous disait des choses excessivement, extrêmement dures, mais avec un grand sourire et un air tellement gentil que personne n'osait l'affronter. Et c'est une arme, je pense qu'il en était conscient, non utilisée en politique. Je peux en citer quelques exemples. Il a présidé à un moment donné un audit sur la question des sciences de la Terre, et il y avait dans les gens directement impliqués des personnalités certainement pas faibles comme Haroun Taziev et comme Claude Allègre, qui étaient peut-être d'accord sur la tectonique des plaques, mais c'était le seul point, c'est-à-dire sur la géothermie, sur le volcanisme, ils étaient hostiles et en plus membres des partis socialistes tous les deux, donc ça ne facilitait pas les débats. Il est parvenu à l'émerveillement général, arrivé à une espèce d'accord qui a tenu ce qu'il a tenu, mais qui était quand même remarquable. Je l'ai vu moi-même dans un conseil européen, celui où a été adopté un programme cadre, je pense que c'est le quatrième ou le cinquième. C'est pas une tradition des conseils des ministres de la recherche, comme à l'instar des conseils d'agriculture, de faire des marathons nocturnes. En général, sagement, les gens terminent à 8 heures, puis ils vont à l'hôtel, ou ils vont. Mais là, il y avait des difficultés. C'était à l'époque où le programme cadre devait s'adopter à l'unanimité, pour ce qui évidemment pose un problème. C'était pas la majorité qualifiée. Et qui était à ce moment-là président de l'Union? C'était la France, et le ministre de la recherche, c'était Hubert Curien. Et un problème qui s'est posé, c'est que c'était la règle de l'unanimité, et les Grecs, qui étaient déjà membres de l'Union, tenaient absolument à voir financer un programme de recherche sur les matières premières, parce que ça les intéressait, parce qu'ils en avaient, parce qu'ils n'avaient pas assez de moyens, etc. Et la discussion traînait, le temps passait, on multipliait les interruptions, les gens s'abreuvaient de café, etc. Hubert Curien était là, stoïque, je dois dire, de plus en plus pâle, de plus en plus défait, mais toujours courtois, toujours gentil, toujours aimable, et finalement, il a obtenu un accord. Bon, je pense que ce sont des qualités qui le servaient éminemment. On les reconnaît et je ne suis pas sûr du tout que quelque chose comme ça puisse se reproduire dans un avenir prévisible. Parlant de l'avenir, j'en viens maintenant à ma dernière question. C'est la question contrefactuelle. Bon, ce n'est pas de la très bonne histoire, c'est de l'histoire un peu populaire, mais enfin, posons-la quand même. Il y a maintenant plein de bouquins qui sortent sur la guerre 14-18, bien sûr. Alors, comme je disais à Michel Blais, ici en France, c'est beaucoup l'histoire sociale, l'histoire des femmes, l'histoire. Bon, c'est très intéressant. Dans le monde anglo-saxon, c'est l'histoire traditionnelle, diplomatique, militaire et politique. Et les gens posent des questions comme qu'est-ce qui se serait passé si ? Qu'est-ce qui se serait passé si, par exemple, là, j'ai lu que Ferdinand n'avait pas été assassiné à Sarajevo ? Pas tellement. Pourquoi ? Parce que ça fournit un prétexte à l'Autriche-Hongrie pour envahir la Serbie, mais parce que Ferdinand était un pacifiste. Donc s'il était resté en vie, il aurait succédé à Joseph II, qui était quand même déjà assez âgé à cette époque-là, il avait 84 ans, je pense, et peut-être qu'il n'aurait pas poussé les choses aussi loin qu'elles ont été. On a même dit, qu'est-ce qui se serait passé si Madame Caillaux n'avait pas assassiné Calmette, le directeur du Figaro? Pourquoi? Parce que Caillaux était un pacifiste, et peut-être que s'il avait été président du Conseil à l'époque, ben, les choses n'auraient pas dégénéré de cette façon. Puis on dit aussi, qu'est-ce qui se serait passé si Winston Churchill, qui a été accidenté lorsqu'il était en visite à New York, un taxi l'a renversé, n'en était pas rescapé et était mort. Est-ce que les Alliés auraient gagné la guerre? Bon, des questions de ce genre. Alors, la question, qu'est-ce qui se serait passé si Hubert Curien, bon, comme je l'avais dit, n'avait pas eu l'occasion d'être ministre de la Recherche? Est-ce que toutes ces initiatives, est-ce que le CERN, est-ce que l'ESA, est-ce que les bourses doctorales, est-ce que tout ça n'aurait pas eu lieu? Bon, c'est évident qu'il faut répondre, bien sûr que ça aurait eu lieu. En histoire, c'est comme ça. Tout, il y a des choses qui sont dans l'air. Bon, en 1905, quand Einstein a publié ses 5 articles, la relativité était dans l'air. Il ne faut pas rêver. Personne ne fait la différence à ce point-là. Mais ça ne veut pas dire que les hommes politiques ne font pas la différence. On peut dire que peut-être que si Einstein n'avait pas été là, ben, la relativité générale aurait été plus tard, peut-être en 1910, peut-être pas de cette façon, peut-être de façon moins claire, il aurait fallu corriger, revenir, etc. Exactement la même chose en politique. Si Hubert Curien n'avait pas été là, toutes ces initiatives de coopération européenne, elles auraient tôt ou tard vu le jour, mais pas de cette façon, pas si rapidement, pas si bien, et pas avec tous ces résultats. Donc, je pense que c'est à la fois une leçon de modestie et une leçon de fierté. Et Hubert Curien était à la fois modeste et fier. Et je pense qu'il serait très heureux qu'on conclue sur ces mots.
Bien, vous l'aurez compris, si on a pris ce temps pour rendre hommage à Hubert Curien et à Pierre Mendès-France, c'est aussi, indépendamment du fondement même de cette maison, c'est aussi parce que ce que disait Michel André, que je remercie, autour de Hubert Curien, c'est que trop de choses s'oublient trop vite sur des actions essentielles et souvent des actions qui sont connues des initiés. Donc, merci de cette aussi mise en actualité des choses. Je ne parlerai pas ce soir de la culture scientifique et du champ dévasté de ces dernières années. On en parlera demain autour de Michel Brunet et d'Edgar Morin, j'imagine. Alors, Michel Blais nous a invités à des questions-réponses. Moi, il y a plein de questions qui me viennent à l'idée. Alors, dans la salle, certains ou certaines d'entre vous ont envie d'aller peut-être un tout petit peu plus loin, un instant, autour de nos intervenants. La seule chose que je vous demanderai, si c'est possible, c'est d'essayer de ne pas parler de poste et de mètre carré, et d'essayer de mettre en perspective les choses telles qu'elles ont été envisagées par nos deux malicieux chercheurs du CNRS et par Michel André. Donc la parole est à vous pour essayer d'aller un petit peu plus loin, si vous le souhaitez. Prends un micro.
Bon, il est très désagréable. Non, je voudrais juste faire une petite remarque. Je suis très content qu'on ait parlé d'Hubert Curien. Très, très content, parce que c'est un homme dont on ne parle plus beaucoup. C'est un fait. Je l'ai connu un tout petit peu, et je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Et c'était un grand ministre de la recherche. Certains devraient parfois s'en inspirer. Voilà. C'est Merci. Tout ce que je voulais dire, mais ça me paraît tout à fait important de rappeler, des hommes qui ont eu un point important, Mendès, mais là, plus récemment, Hubert Curien. Et sur le plan européen, effectivement, son rôle a été quand même décisif. Voilà. Et je suis très content qu'on en ait parlé. Voilà. On n'en parle pas souvent.
Merci. Y a-t-il une intervention ou un questionnement? Est-ce que tout a été dit? Oui. Pas de regrets? Non. Jean-Luc, viens nous voir. Ah, pardon. Allez-y.
Ce n'est pas vraiment une question, simplement un petit commentaire en fait, sur les fondateurs un peu et puis l'esprit. On a beaucoup parlé des grands hommes et des hommes politiques, mais je suis le fils de Christian Brochet, en fait, pour ceux qui ne me reconnaissent pas. Et je voulais juste apporter un témoignage, parce que moi j'ai vécu la maison des sciences, comme elle s'appelait, donc, puis Devenir, puis l'espace Mendès-France, comme un enfant, donc, avec beaucoup de réunions et beaucoup de temps que mon père a consacré à ce projet. Et je voulais dire que ça a eu beaucoup d'influence dans ma vie, et je trouve que, alors c'est sûr, les grands projets de recherche, le CNRS, tout ça, c'est fascinant, mais la culture scientifique, elle se vit au quotidien, et en tout cas, je suis très, 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 très honoré que Poitiers puisse s'enorgueillir d'avoir une maison des sciences, enfin voilà, un espace dédié à cet espace-là, et que pour moi, ça a eu une grande importance dans ma vie, la culture scientifique, et je trouve que la culture scientifique n'est pas assez mise en avant, elle n'est pas assez diffusée au quotidien, alors que c'est finalement la culture la plus universelle. Et c'est celle qui touche tout le monde. Elle est totalement transnationale, et surtout elle est le rempart le plus magnifique contre le toute l'horreur de l'humanité, qui est la haine, qui est l'incompréhension, qui est la guerre et tout ça. Et donc, en tout cas, à travers cette rétrospective, on voit que les deux grands hommes dont on nous a parlé ce soir, qui sont à la fois Hubert Curien et Pierre Mendès-France, avaient cette conviction. Et justement, elle dépasse aussi tous les clivages politiques et tous les intérêts. Donc, merci en tout cas à Jacques Centreau, à M. Jackson, voilà, M. Bourdet, les fondateurs qui sont pas, dont on parlera moins dans l'avenir qu'Hubert Curien et Pierre Mendès-France, mais qui au quotidien ont posé toutes les pierres, qui ont eu des influences très importantes sur des gens comme moi qui ont 40 ans aujourd'hui et qui regrettent que les prix Nobel ne soient pas eux aussi ministres de la recherche aujourd'hui.
Merci Frédéric. Je vais vous raconter une anecdote d'une minute. Dans la cafétéria de l'espace Mendès-France, l'autre jour, il y avait une interview, ça arrive de plus en plus souvent, ça s'est passé il y a quelques mois, d'un jeune qui a monté une application pour des smartphones, voilà, des smartphones, et ce garçon a expliqué qu'il avait pris le virus de l'astronomie, Et il a développé une application qui a été vendue à plus d'un million d'exemplaires. Alors, c'est pas une histoire d'argent, simplement. Et c'est un gamin qui doit avoir 19 ans. Donc, il a dû croiser en son temps Pascal Baron et Éric Chapelle, ici présents dans la salle. Donc, c'est l'incertitude ou l'inattendu de la culture scientifique. Peut-être que l'œnologie est un élément de la culture scientifique. Donc, voilà. Donc, ça fait partie des choses auxquelles on est extrêmement attentif. C'est de susciter des choses inattendues et improbables. Y a-t-il d'autres choses avant de laisser la parole à notre rédacteur en chef préféré? Oui, bien sûr.
Avec le micro rouge, oui, merci Michel. Je ne suis pas convaincu que les grands chercheurs fassent forcément de bons politiques. Enfin, mettre un prix Nobel au ministère de la Recherche, je ne suis pas convaincu de l'utilité, parce qu'il y a beaucoup de, voilà, il y a beaucoup de contre-exemples qui prouve le contraire. En revanche, une forte complémentarité, comme on a parlé au moment du Front populaire, entre un grand chercheur et puis un très grand politique, Jean Perrin, Jean Zay, là, ça crée une alchimie qu'on rencontre pas fréquemment dans l'histoire. Mais des savants qui se sont cassés les dents rue Descartes, il y en a eu un certain nombre. Ouais. Bah, c'est peut-être une raison, justement. Du coup.
Même plus l'idée d'en mettre...
Débat ouvert. Tu veux répondre, Michel? Un petit mot. Ou Jacques, oui.
C'est comme la guerre, c'est trop sérieux pour la laisser faire par les militaires. C'est pareil pour la recherche.
Ouais. Non, mais je crois que vous avez raison. Pour la toute petite expérience que j'ai vu des collègues qui étaient excellents chercheurs et qui sont devenus des gestionnaires de la recherche. Bon, comme ça. Et je crois qu'effectivement, il faut chercher au contraire la complémentarité. Parce qu'il y a besoin des deux. Et il y a absolument besoin, comme vous l'avez souligné, d'un très bon chercheur quand même. Il y a ce besoin. Mais il y a besoin à côté d'un très bon politique. Et je crois que les deux ensemble sont nécessaires. Je suis tout à fait d'accord.
D'ailleurs, c'est ce qui a été dit tout à l'heure aussi.
Ça a toujours été extrêmement compliqué. Il n'y a rien de plus... Enfin, tout est relatif, mais la politique de recherche suppose une combinaison de qualités et de connaissances qui sont rarement réunies dans un seul homme. Il faut une bonne connaissance de la science, bien entendu, et de la science en général. Je veux dire... Hubert Curien était cristallographe. Dans le bouquin dont je parle, tous les biologistes, il y a François Gros, il y a Paillotin, il y a Philippe Lazard, s'expriment très positivement sur la manière dont ils dialoguaient avec des biologistes et des médecins. C'est que si vous avez une bonne connaissance d'une discipline, vous avez une connaissance, non pas la méthode scientifique, on sait que ça n'existe pas, mais la façon scientifique de poser les problèmes et d'y réfléchir. Ça, c'est important, peu importe que vous soyez physicien ou biologiste, même si en général, c'est plutôt des physiciens. Si vous regardez les conseillers pour la science du président des États-Unis, il y a pratiquement 9 physiciens pour un seul biologiste. Varmus était une exception. C'est peut-être une erreur, je suis tout à fait d'accord. Bon. Mais il ne suffit pas de ça. Il faut aussi une certaine connaissance de la société, de la façon dont les besoins se manifestent, de ce à quoi éventuellement pourrait conduire le progrès des connaissances, étant entendu que ce n'est pas nécessairement en le poursuivant que vous l'obtenez. C'est un peu comme tout dans la vie. La meilleure manière d'être malheureux, c'est de poursuivre le bonheur à toute force. Hein. C'est la même chose en science. La meilleure façon de ne pas appliquer, ce qu'on appelle, on appelait ça à l'époque, Michel Canon appelait ça la RANA, la recherche appliquée non applicable. Bon. Finalement, il y a des tas de développements de plus fondamentaux qui ont trouvé des applications très rapidement, d'autres très lentement, d'autres dans des secteurs complètement différents. Donc je dis, le mieux est de dire que la connaissance elle-même a de la valeur. Mais il faut aussi une certaine connaissance du milieu politique, de la façon de faire en politique. Donc c'est très rare de voir ça réuni. Et je dirais que c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui que c'était à l'époque du Bercurien et à l'époque de Mendès-France. Parce que la politique est devenue beaucoup plus compliquée. Parce qu'on vit dans un régime de démocratie généralisée, avec de plus en plus d'acteurs, avec de plus en plus de prises de parole, avec de plus en plus d'intérêts. Donc c'est évident que mener une bonne politique de recherche aujourd'hui, c'est encore bien plus difficile que ce ne l'était à l'époque de ses fondateurs.
Merci. Jean-Luc. Vas-y, Daniel.
Donc, il y a 25 ans, 30 ans, un certain nombre de centres de culture scientifique, comme Devenir, qui est devenu Mendès-France, en sauvant les meubles, ont été créés en France un petit peu partout. Les locales pendant 19 ans. Je sais pourquoi. Mendès France est resté. Ce serait trop de savoir pourquoi la plupart des centres de culture scientifique ailleurs ont disparu, parce qu'on a parlé de Mendès France et du Bercurien qui étaient les sommités au niveau national, voire une vision internationale pour les Grenades de Chine ou d'ailleurs, ou sur la culture scientifique pour l'Europe. Mais pourquoi aujourd'hui on n'arrive pas, on n'a pas arrivé à sauver ce genre de centre qui est en lien fantastique avec l'université, avec le monde de la recherche, à un tissu, un réseau de diffusion que l'on voit dans une excellente revue, et les poids de vin sont pas plus géniaux que d'autres. Pourquoi ailleurs la plupart ont disparu?
Qui répond? Non, ils sont pas plus cons, hein, nulle part d'ailleurs. C'est un problème de réseaux territoriaux. C'est un problème d'intérêt politique. Je pense que la ville de Poitiers, la région Poitou-Charentes, à travers leur présence historique, l'ont prouvé en essayant de lier science et culture sur un même équilibre. Beaucoup de mes collègues, moi j'étais président de la réunion des centres de culture scientifique, nous étions 37, nous ne sommes plus que 24, dont 6 ont créé un espèce de singe des science centers à l'anglo-saxonne. Donc en fait, nous ne sommes plus que 18. Et sur les 18, il y en a combien qui gèrent des murs et une plateforme régionale? Il n'y en a qu'un. C'est le centre ici. Pourquoi? Parce qu'il y a un effet de taille qui crée des connivences et qui crée une capacité à faire cette alchimie entre connaissance et diffusion vers les non-sachants, qui est peut-être plus simple. Marseille n'a plus de centre de culture scientifique, Toulouse n'en a plus, Lyon n'en a pas, Rennes, le centre est en train de capoter. Donc voilà, donc je crois que derrière ça, il y a aussi une relation entre les politiques, le monde de l'éducation, le monde de la recherche, disposés vers un même objectif, qui est celui de nos publics. Et je pense que peu de gens ont ce genre d'attitude actuellement. Et ça a été oublié par les politiques, qui travaillent beaucoup trop sur des choses qui sont finalement dans des silos. Il y a la connaissance d'un côté, il y a les diffuseurs à côté, il y a les culturels à côté, il y a les économiques à côté, alors que c'est pas vrai. On entre dans un monde qui est global et exponentiel, là où on était dans un monde qui était local et linéaire. Donc il faut que ces centres accompagnent tout ça. Et si on a créé le lieu multiple il y a une dizaine d'années avec la regrettée Mireille Barillet, et si la ville de Poitiers nous a accompagnés avec la région, c'est pour bien montrer que dans un même lieu, d'ailleurs demain soir, vous pouvez regarder le laboratoire qui est en train d'être créé dans une salle juste à côté d'ici, la salle Galilée. C'est un laboratoire du numérique avec des dispositifs qui sont proches de ceux de la recherche. Ce sont des créateurs numériques chiliens, argentins, basques, espagnols, pardon, madrilènes, espagnols, pardon. Ils sont, voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, il faut arriver à faire dans un même lieu vivre une multiplicité d'offres, donc d'expression, et une multiplicité de publics. Et je pense que mes collègues, ils ont oublié que les publics devaient être au cœur des préoccupations. Et la deuxième chose, l'ancrage dans la recherche, ils ne l'ont malheureusement pas. On a la chance ici d'avoir la possibilité, en proximité, de pouvoir puiser une connaissance disponible pour nos concitoyens immédiate. Si on n'est pas d'accord, on se confronte et on met en forme des messages. Moi, je voudrais saluer Patricia Arnaud, parce que hier et avant-hier, sur Femmes, Sciences et Technologies, il s'est passé quelque chose d'important. Et je pense qu'il y a des choses importantes qui ont été dites, y compris vers la concrétisation d'actions. Donc, je crois que voilà, Daniel, je ne réponds pas à ta question, mais en même temps, je me dis, si on est tendu vers la pluridisciplinarité du point de vue de la mobilisation des gens, vers la transversalité, vers un appui à nos concitoyens à mieux comprendre le monde dans lequel ils sont, on est dans quelque chose qui est aussi de la vulgarisation, mais plus que de la vulgarisation, qui était le point de départ de 77, et les sciences de l'homme et de la société nous ont aidés à éclairer l'action de culture scientifique que l'on fait ici. Donc il faut accepter de cette congruence de choses qui sont parfois contradictoires. Et quand vous vous rencontrez ici, scientifiques, autour de la table, je vois ce qui s'est passé il y a 15 jours dans un conseil scientifique, eh bien il y avait des contradictions au sein de la recherche de l'université de Poitiers qui étaient mises sur la table et qu'on mettait finalement à disposition d'un message vers les publics, en l'occurrence un sujet grave, c'est les addictions, le cerveau, les sciences cognitives, les neurosciences, etc. Donc je crois que ce centre, il est en train d'évoluer, sa mutation, elle est en route. L'espace Mendès France dans 10 ans sera plus du tout l'espace Mendès France d'aujourd'hui, parce qu'il en est ainsi, parce qu'il faut suivre l'évolution sans se complaire à aller dans uniquement l'effet du temps, ou l'éphémère. Donc essayer de s'inscrire dans le très long terme et tout en essayant d'être présent sur les usages, l'évolution, les mutations, etc. Donc c'est un travail permanent qu'on fait avec vous. Et la diffusion, les contenus et la diffusion de la revue L'Actualité, pour nous, fait un effet condensateur sur 48 pages, Jean-Luc, culture, éducation, recherche, innovation, et surtout, ce sont des personnalités qui sont mises en évidence, sont des gens, concrètement, sont des gens, des groupes de personnes, et c'est le talent que Jean-Luc a réussi à mettre sur papier au fil des années et qu'on est en train de mettre sur le net. Hein, je vous rappelle que le site internet de Mendès France, c'est maintenant plus de 15 000 personnes par mois, 15 000 personnes différentes. C'est énorme, ça devient quelque chose d'énorme. Donc on voit bien qu'il se passe quelque chose sous cette double influence de la volonté de pluridisciplinarité et puis de thème fédérateur. Jean-Luc, vas-y Michel.
Je voulais ajouter quelque chose que Didier n'est bon, absolument pas en position de dire, un élément supplémentaire, c'est qu'une institution comme l'Espace Mendès France et une revue comme Actualité pour tout Charente ne se maintiennent pas pendant autant d'années sans que soient en cause d'une certaine manière les gens qui s'en occupent. Autrement dit, people matters. Les gens comptent. Évidemment, il y a des facteurs structurels comme partout, mais à un moment donné, il y a les aspects personnels. En histoire des sciences, est rempli de ça. Je vais donner deux exemples. Un projet pas très intéressant avec une personne très attachante, et l'autre, un projet intéressant avec une personne terrible. Le premier, c'est le projet Manhattan. Tout le monde sait que le projet Manhattan de mise au point de la bombe atomique n'aurait pas été de nouveau, n'aurait pas abouti si vite et dans ces conditions s'il n'y avait pas eu la personnalité d'Oppenheimer qui s'est mystérieusement révélé un meneur d'hommes exceptionnel alors que c'était un intellectuel timide. De la même façon, tout le monde sait que la découverte des bosons vecteurs intermédiaires WZ n'aurait peut-être pas été réalisée comme ça s'il n'y avait pas eu Carlo Rubbia, qui n'était certainement pas un homme facile, mais qui avait le talent d'organiser les équipes. Donc il y a des facteurs structurels, il y a des facteurs permanents, et puis il y a les gens qui comptent et qui font que les choses durent un peu plus longtemps qu'elles n'auraient dû ou se maintiennent à un niveau de qualité qu'ils auraient pu perdre. Merci.
Moi, c'est inhabituel, mais j'ai mis vrai un petit exercice d'équilibriste parce que 25 ans, c'est beaucoup, c'est moins de 26. Et j'ai pensé à un abécédaire très court, hein, vous inquiétez pas. Et comme l'actualité a paru avant la création de l'Espace Mendès France, on peut faire 26 lettres. Et donc c'est une façon décontractée d'entrer un peu au cœur de la machine. Vous allez voir, ça passe d'un sujet à l'autre. C'est l'avantage de l'abécédaire, on peut tout dire de façon brève. Alors, A, comme Alberto Mengel, l'un des grands écrivains de notre époque, sollicité dans le monde entier. Il s'est installé dans le Poitou en 2000. Nous nous sommes rencontrés pour un entretien, une amitié est née, et tout naturellement, il est devenu l'un des collaborateurs de l'actualité Poitou-Charentes. Ce soir, Alberto ne peut pas être parmi nous, car il était victime d'un AVC durant les fêtes de fin d'année, mais il se remet. Il va de mieux en mieux, il n'a pas perdu son sens de l'humour, et on lui souhaite bon courage. B, comme Baxter, Glenn Baxter, nous y reviendrons. B, comme beauté dans ce monde saturé d'horreur, nous avons choisi la ligne claire. La mise en page sans effet pour une parfaite lisibilité, avec de superbes photos et dessins d'artistes d'ici et d'ailleurs. C'est comme culture scientifique. Quelque chose s'est inventé dans ce domaine, grâce à l'Espace Mendès France et à l'actualité Poitou-Charentes. La culture scientifique ne doit pas être un domaine séparé de la culture. C'est pourquoi l'actualité est devenue une revue culturelle à fort contenu scientifique. D comme doute. Merci à Edgar Morin de nous avoir encouragés dès 1994 et libérés de pas mal de schémas autobloquants. Un dimanche matin, avec Didier Moreau, nous étions allés l'écouter faire la synthèse des journées sciences et citoyens, et il disait « Il faut lier le savoir au doute ». Eux, comme encyclopédie régionale. C'était le rêve de Claude Fouchier, l'un des fondateurs de l'actualité avec Jean-Pierre Michel et Christian Brochet. Nous l'avons fait au-delà de ce que vous pouvez imaginer, et ce n'est pas fini. F comme façon Poitou-Charentes. Vous voyez bien que c'est un peu farfelu. Nous avons développé une façon de faire qui est à la fois ancrée dans un territoire, parfois jusque dans le micro-local, et dont la portée va bien au-delà. Dans cette édition que je vous présente aujourd'hui, je citerai un seul exemple. Le destin tragique d'Herculine Barbin, hermaphrodite née en 1838 à Saint-Jean-d'Angély, qui fut institutrice au château d'Oléron. Ces souvenirs ont été redécouverts et publiés par Michel Foucault en 1978, puis oubliés en France, du moins, car ce n'est pas le cas aux États-Unis. Judith Butler, dans son livre « Troubles dans le genre », consacre un chapitre à Herculine Barbin et à Michel Foucault. Tout cela nous revient à l'occasion de la réédition prochaine du livre d'Herculine Barbin avec la préface de l'édition américaine de Michel Foucault et une substantielle postface d'Éric Fassin que nous avons interviewé pour ouvrir le dossier sur le miroir d'Eros, manifestation organisée en mars par le TAP et l'Université de Poitiers. Et encore, je n'ai pas cité tous les points d'ancrage dans cette affaire. FBIS. À la création d'université, Poitiers comptait 5 facultés. Daniel Lomont, lorsqu'il était adjoint de Jacques Centreau, chargé d'université, en a identifié une sixième, toujours à l'œuvre, la faculté de nuire. Mais est-ce vraiment une spécificité, Poitevine ? J'ai comme gastronomie. Marc de Neuillère et Denis Montebello sont parmi les premiers artistes à avoir rejoint l'actualité, notamment pour la rubrique Saveur, avec Glenn Baxter et ses grandes couleurs. Façon pour nous d'exhumer, mais surtout d'augmenter un patrimoine régional et de le porter bien au-delà des frontières, sans aucun chauvinisme, évidemment. H comme humilité. Le métier de journaliste, tel que nous le pratiquons, est un exercice d'humilité, parce que nous voulons donner à entendre la parole de l'autre. Donc I comme interview. Il y a toujours beaucoup d'interviews dans l'actualité, comme une discussion à plusieurs voix qui souvent se poursuit au fil des numéros. J'ai comme le joy des troubadours. Au premier rang d'école, Guillaume de Poitiers. Pierre Bec dit « C'est l'exaltation de l'être, une exaltation à la fois intérieure et cosmique. Pour nous, c'est la joie de désirer. C'est une force qui nous pousse à ne jamais s'arrêter, à ne jamais baisser les bras. » K comme Kate Barry, qui nous a quittés en fin d'année. Alors qu'elle cherchait à explorer d'autres champs que la mode et les portraits de célébrités, elle est venue vers nous en 2003 grâce à l'écrivain Jean-Jacques Salgon avec une série de photos sur les cimetières de La Rochelle, puis sur le Muséum d'histoire naturelle de La Rochelle. Elle, comme Lottie, pour un coup de chapeau à Alain qui est la villégée, plume historique de l'actualité, non plutôt elle comme littoral. C'est la dernière frontière, comme me disait récemment Paul Virilio. Et pour nous, c'est d'abord un casse-tête. Comment choisir une photo pour illustrer le Poitou-Charentes ? Terre ou mer ? Comment ne pas vexer les uns ni les autres ? Le choix est souvent difficile. Bon, M comme Didier Moreau. Salut et fraternité. On est sur la même longueur d'onde et ça aide. N comme naviguer. Apprendre à naviguer, pas seulement avec les outils numériques. Pour relever le défi de la complexité, comme le dirait Edgar Morin, pour cultiver le sens critique, pour contextualiser et globaliser son savoir. O comme ouverture à 360 degrés, la base du métier. P comme progrès. Hommage à Jean-Jacques Salomon, qui avait écrit pour nous « L'impérialisme du progrès » en réponse à Edgar Morin. Dans la presse, nous avons conduit en 40 ans une formidable évolution technique. Certains d'entre nous ont commencé avec une machine à écrire, du papier, de la colle, des ciseaux. Aujourd'hui, tout va plus vite, mais n'oublions pas que la technique n'est qu'un outil. Q comme quota. Il n'y a pas de quota dans l'équipe de l'actualité Poitou-Charentes. Les femmes y sont plus nombreuses, parce que souvent plus consciencieuses. S comme science. Histoire de rappeler qu'il n'y a pas, face aux sciences dites dures, des sciences molles ou douces, mais des sciences de l'homme et de la société, dont les questionnements et les résultats sont, hélas, sous-exploités. Comme Toumaï, notre héros. Sans liberté de recherche, pas de grande découverte. Aujourd'hui, Michel Brunet aurait sans doute beaucoup de mal à s'aventurer hors des sentiers battus. U comme urticaire. Qu'est-ce qui nous donne de l'urticaire ? Les communicants. V comme voie express. Non pour faire l'apologie de la voiture, mais pour dire que nous préférons les chemins de traverse. W comme web, en souhaitant accroître la présence de l'actualité pâturante sur le web. X, l'inconnu, parce que nous sommes face à l'inconnu. Y comme yourte, non parce que c'est un habitat écolo, désormais fabriqué dans le Marais-Poitevin, mais parce que c'est une structure souple, comme l'actualité. Rien dans le paraître, tout dans le contenu, tout dans l'humain. Et enfin Z, comme zéro pointé, non. Z, comme les oiseaux, film de Pascal Thomas, tourné en 1972 dans son pays natal, à Saint-Chartres, près de Moncontour. Film que l'on peut toujours voir avec beaucoup de plaisir, notamment pour sa valeur documentaire, pour les accents des figurants. Et 30 ans après, dans la même région, il a réalisé une autre fiction, pétillante, pleine d'humour, dont le titre nous convient parfaitement. Nous allons vivre une très, très grande histoire d'amour. Merci.
Monsieur le Président, cher Mario.
Alors moi, je remercie Jean-Luc d'avoir oublié une lettre. Ah ouais, il me semble. Le R. Et auquel cas, merci de cet oubli, parce que R comme réussite.
C'est tout.
Je n'ai pas préparé. Hein.
Donc, avant de nous retrouver autour du buffet de gastronomie picto-charentaise, je vais rebondir sur ce que disait Mario. La réussite n'est jamais acquise. Il faut toujours remettre l'ouvrage sur le métier. Ça, c'est un premier point. Et puis, je voulais remercier Jean-Luc parce qu'à travers sa présentation, il fédère une qualité d'intervenant inattendu, improbable. Je ne sais pas si un Glenn Baxter est envisageable dans un autre centre de culture scientifique. Si je pose la question ainsi, c'est ainsi. Et je voulais aussi remercier nos intervenants parce que ce sont des complices historiques de la maison, nos deux Michel, Denis depuis plus récemment, parce que finalement, à travers les questions que vous posez sur la recherche, vous renvoyez aux acteurs de la médiation leur rapport à la recherche tout autant. Et la relation que nous avons au monde politique, au monde territorial, montre que cette maison, elle est éminemment liée à la réussite d'une recherche de qualité et excellente dans nos régions, mais elle est également liée à la conscience qu'ont nos politiques de l'importance de la diffusion de la connaissance, de son partage et de sa sociabilisation, sa popularisation, dirait Edgar Morin. Donc, je voulais vous remercier à toutes et à tous parce que ça nous éclaire. Pour moi, ce ne sont pas des exercices de style stérile. Ils sont féconds, ils orientent et ils irriguent nos conceptions professionnelles, nos conceptions militantes, parce que c'est une maison de militants, et qu'il faut le réaffirmer. Nous ne sommes pas des communicants, encore une fois. Nous sommes professionnellement exigeants, mais en même temps ancrés dans la citoyenneté de notre région et de notre cité. Et ça, c'est quelque chose auquel je tiens dans la relation entre les professionnels de la maison que je salue, puisqu'ils sont pour beaucoup d'entre eux ici, et à travers Mario, à travers le président de l'université, notre doyen de fac de sciences, et toutes celles et tous ceux qui sont là. Je voudrais saluer aussi cette relation qui s'est créée, qui est une relation où la légitimité des uns reconnaît et respecte l'identité de l'autre. Donc ça, c'est pas quelque chose qui est aussi évident qu'on pourrait le croire. Et puis, dernier point, demain, nous ferons le point sur... Et dans 25 ans, comment ça se passera autour de Michel, mon ami Michel Brunet, Edgar Morin, avec la complicité, une intervention d'Axel Kahn, la complicité d'Yves Sénatiempo et la présence d'Alain Claisse, député maire de la ville de Poitiers, pour boucler cette réflexion, parce que je compte tous qu'ensemble, dans le grand chambardement qui est devant nous, nous puissions adapter les conditions d'une mise à disposition des compétences de cette maison auprès de nos concitoyens. Donc, merci de nous aider à poursuivre ce chemin qui est finalement aussi ardu qu'il est finalement rayonnant. Merci et bonne soirée.